Sur cette bande magnétique est enregistrée la traduction française d'une prédication du révérend William Branham. Cette prédication s'intitule « Les choses qui doivent être ». Frère Boone et vous tous, c'est certainement une grande joie pour moi d'être de retour à San Bernardino. Oh, cet endroit renferme tant de souvenirs du passé, et d'apprendre que ma visite ici a encore une influence vivante sur les âmes me remplit de joie que le Seigneur m'ait conduit ici il y a des années. Je venais de ranger ma voiture dans le parking et j'essayais de me souvenir d'un des événements qui était arrivé. Il y avait une Madame Isaacson qui avait été mon interprète pendant une campagne que j'avais faite en Finlande. Elle vint vers ma voiture au moment où je m'en éloignais. Elle me dit « Vous êtes la voix de la Finlande ». Et je me demandais si Madame Isaacson vivait dans les environs. Je ne savais pas, je ne pensais pas qu'elle serait présente ce soir. Madame May Isaacson est finlandaise. Puis une autre chose extraordinaire m'est revenue en mémoire. Une petite serveuse dans un restaurant où je mangeais, dans les environs appelés l'hôtel Antlers. Oui, je crois que c'est bien cela. Et la petite dame avait... Je priais avec elle. C'était une charmante petite dame, mais elle n'était pas chrétienne. Je l'avais invitée à la réunion, et elle avait perdu un bébé, et je crois que son mari et elle étaient séparés. Et nous avons prié pour qu'elle pardonne à son mari, ou qu'ils se pardonnent mutuellement. Ainsi, je me demandais si cette petite dame pourrait venir, vous comprenez? Et puis, autre chose arriva. Un petit bébé fut apporté de quelque part, distant environ d'une journée de voiture. Il était mort, et sa mère le tenait dans ses bras, et il fut ressuscité. Est-ce que cette personne est-elle présente ici? Et il venait d'un état des environs. C'est par là, et la petite maman avait conduit toute la nuit, ainsi que le père. Et la petite maman, assise là, tenant son petit bébé mort, tristement dans ses bras. Et je pensais, quelle foi! Même si j'étais le plus grand hypocrite du monde, Dieu récompenserait la foi de cette mère. Alors que je tenais le petit bébé dans mes mains comme ceci, tout en priant, il devint chaud et il commença à remuer et il ouvrit ses petits yeux. Je le rendis à sa mère. Ainsi, il venait de quelque part. Je ne pense pas cependant qu'ils étaient pentecôtistes. Ils étaient simplement, je crois que c'était une église. Je ne sais même pas s'ils étaient chrétiens. Je ne l'aurais jamais demandé. J'étais tellement transporté par le retour à la vie du petit bébé. Depuis lors, frère Boone, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Mais nous servons encore le même Dieu qui reste le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. En me retournant, je vois le frère Leroy Kopp assis. Et c'est la première fois que je le revois depuis bien longtemps. Ah oui, non pas le roi, mais Paul, c'est exact. Le roi était votre père, c'est exact. Oh mon Dieu, la Russie! Je sais que ce brillant soldat est là. Il est là pour les affaires du roi. Aussi suis-je certainement très heureux d'être ici et d'entendre dire à ce jeune prédicateur qu'il fut appelé par notre ministère pendant notre séjour ici. Cela nous est une si grande joie. Et j'ai confiance maintenant... que, sachant que nous avons, les gens sont debout et nous ne les retiendrons pas trop longtemps. Nous nous souvenons de ces grandes missions de guérison. Maintenant, j'ai appris qu'il y a un frère, quelque part dans les environs, qui tient une campagne de guérison divine. Frère Leroy Jenkins, c'est bien cela, je pense. Aussi, suis-je très reconnaissant au Seigneur et j'ai confiance que le Seigneur le bénit et lui sera d'un grand, grand secours. Vraiment, je me sens honoré de venir dans cette église comme celle-ci. Je me sens toujours mieux dans une église chrétienne que dans ses auditoriums. Maintenant, je n'ai rien contre les auditoriums. Mais, vous savez, c'est peut-être une superstition, mais cela m'apparaît plutôt comme une vérité. Vous voyez, vous entrez dans ces auditoriums où il y a eu des combats de boxe, de lutte, des spectacles, de variété, tout ce que l'on veut. Alors des esprits mauvais semblent hanter ces endroits. Certes, Cela peut ressembler à une superstition, mais cela n'en est pas une. Mais quand vous entrez dans une église, habituellement, bien entendu, dans une assemblée spirituelle, vous vous sentez plus libre, comme ici. Il y a quelque chose de différent. La présence de Dieu est là. Cela paraît tout différent. Je ne sais pas quelle influence peut avoir le bâtiment, mais c'est l'endroit où les gens sont rassemblés. Naturellement, ce sont les mêmes gens qui sont à l'autre endroit, mais sur un terrain malsain. Peut-être suis-je le seul à penser ainsi, mais de toute façon, je suis heureux d'être ici ce soir. Maintenant, nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps, parce que vous êtes debout. Et demain soir, nous allons à un autre endroit par ici. Je ne sais même pas où cela est. C'est près d'ici. Orange Show Auditorium, pour les réunions demain soir. Je parle d'une tournée pour les hommes d'affaires du plein évangile. J'ai eu le privilège de faire des conférences dans le monde entier pour eux. Et aussi ici, un ami très cher nous a invités et nous sommes heureux d'être dans cette assemblée ce soir. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible. Naturellement, n'importe qui ayant une force physique peut l'ouvrir de cette façon. Vous voyez ? Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour nous révéler la parole, ouvrir nos esprits et nous révéler les Écritures. Je crois en la Bible, je crois que c'est la parole de Dieu, et je crois que la terre ou les peuples de la terre seront jugés un jour par cette parole. Maintenant, cela peut paraître bizarre, certes beaucoup ne sont pas de cet avis. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un de mes amis très loyal qui est catholique, et il me disait « Dieu jugera le monde d'après l'Église catholique ». S'il en est ainsi, quelle Église catholique, vous voyez? S'il juge le monde d'après les méthodistes, alors que deviendront les baptistes, vous voyez? Et s'il juge le monde d'après une Église, alors l'autre est perdu. Il y a là trop de confusion, mais nous devons aller vers lui pour trouver notre propre déclaration. Et la Bible dit que Dieu jugera le monde d'après Jésus-Christ. Et il est la parole. Évangile de Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair, et elle habita parmi nous. Et Paul, dans son épître aux Hébreux chapitre 13, le verset 8, nous dit, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je crois que cela est la vérité. Maintenant, je crois que Dieu, au commencement, c'était le Dieu infini. Il est fini, ou plutôt infini, et nous sommes des êtres finis. Son essence est tellement plus grande, et nous, dans notre petit esprit fini, nous ne pouvons pas comprendre sa grande sagesse infinie. Mais cependant, quand il dit quelque chose, cela peut nous paraître étrange de l'entendre dire certaines choses dans l'Écriture, mais cela doit arriver. Je crois que ces paroles ne passeront jamais. En conséquence, je crois que Dieu, sachant que nous, dans notre petit esprit fini, ne pouvons pas interpréter son grand esprit, il interprète sa propre parole. Il n'a besoin d'aucun interprète. Il interprète sa propre parole en justifiant cette parole par son accomplissement. Je crois que Dieu était au commencement, que Noé était sa parole pour cette époque, pour son message. Et puis après vint Moïse. Mais Moïse ne pouvait pas avoir entendu la parole de Noé. Il ne pouvait pas construire un navire pour faire sortir les Hébreux d'Égypte le long du Nil ou les conduire à la terre promise, et ainsi de suite. Son message n'aurait eu aucun effet à l'époque de Noé. Cela était la partie de la parole de Dieu, destiné à être proclamé comme vérité par Moïse. Jésus n'aurait pas pu non plus avoir le message ou la parole de Moïse, et Luther n'aurait pas pu garder le message de l'Église catholique. Wesley ne pouvait pas garder le message de Luther, et les pentecôtistes ne pouvaient pas accepter le message méthodiste. Vous voyez, l'Église grandit. Chaque âge est précisé dans l'Écriture. Ainsi Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, révèle sa parole en la manifestant et en la justifiant lui-même, montrant que c'est son message destiné à être transmis au jour prévu. Jésus l'a dit. Il a dit, « Si vous ne pouvez croire en moi, croyez dans mes œuvres, car ils rendent témoignage de celui qui est. » Vous voyez ? Et si quelqu'un voulait avoir connu l'Écriture, maintenant, Jésus est venu si bizarrement, d'une façon si étrange, que les gens n'ont pas voulu croire en lui, parce que lui, étant homme, se faisait Dieu. Mais il était Dieu en état. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et aucun homme n'aurait pu accomplir cette mission sans que Dieu ne soit avec lui. Comme nous le savons, Nicodème a dit que le Sanhédrin le croyait. Maintenant, nous savons que la parole est, ils avaient connu la parole. Jésus a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu parce que Moïse a parlé sur moi. Et nous regardons, s'ils avaient consulté l'Écriture et vu ce que le Messie avait à accomplir, alors ils l'auraient reconnu par le fait que Dieu réconciliait le monde avec lui-même par l'entremise de Jésus-Christ. Jésus réalisa toutes les promesses concernant le Messie et tout ce que celui-ci devait accomplir. Jésus supporta le test de cette parole, la faisant vivre jusqu'à ce jour. Et je crois que nous vivons la même chose aujourd'hui, Dieu portant le poids de sa parole en affirmant que ce qu'il a dit, il le ferait. Maintenant, nous savons qu'aujourd'hui est le jour de notre salut, quand Dieu appelle l'homme appartenant au monde une vie de péché à une vie de service. Et le jour où Dieu déversera son esprit depuis le ciel, de grands signes et des choses étonnantes accompagneront l'accomplissement de ce jour. Ceci aura lieu quand la première et la dernière pluie tomberont ensemble. Et nous savons qu'il doit y avoir de grands signes et des choses étonnantes qui sont ignorées dans beaucoup de grandes religions. Mais je remercie Dieu pour toutes ces portes ouvertes que j'ai dû franchir et l'inspiration que cela a suscité chez le jeune homme, votre pasteur, ici présent. Oh, je commence à devenir vieux, et je sais que mes jours sont comptés, mais je sais aussi que ces jeunes hommes peuvent recueillir ce message et le maintenir jusqu'à la venue du Seigneur. S'il ne vient pas dans ma génération, j'espère le voir, je le cherche tous les jours, et je veille, me tenant prêt pour ce moment. Mais maintenant, inclinons-nous et parlons à l'auteur avant de lire son livre. Ô Père Céleste, nous te remercions d'être vivant ce soir, de revenir dans cette grande ville, ici, dans le décor des montagnes, levant les yeux et voyant la neige et les bourgeons oranges en même temps. Ô quel monde magnifique tu nous as donné pour vivre. Et quand nous voyons la façon dont l'homme l'a bouleversé et a agi, nous avons honte de nous-mêmes, ô Père. Nous sommes ici ce soir pour réunir nos efforts, pour essayer de faire voir à l'homme cette grande chose que tu as faite et lui faire connaître qu'il y a quelque chose de plus grand encore au-delà. Puissions-nous penser à cela ce soir, ô Père, alors que nous nous plongeons dans ta parole pour la lire. Nous pouvons la lire, ô Père, mais que le Saint-Esprit nous la communique à travers la révélation, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ceux qui peut-être veulent prendre des notes et lire ensuite l'Écriture avec le pasteur comme ils la lisent habituellement, et c'était l'habitude, quand il y a des années, je n'avais pas besoin d'écrire mes versets, et ainsi de suite, mais j'ai un peu vieilli depuis lors. Vous savez, j'ai dépassé 25 ans récemment de ministère, déjà 25 ans. Alors, cela complique un peu les choses, mais j'essaye encore de continuer à faire tout ce que je sais faire en son nom, jusqu'à ce qu'il m'appelle. Maintenant, tournons-nous vers l'Évangile de Jean, le chapitre 14, une écriture très familière que nous voulons lire ce soir pour en tirer, si le Seigneur le veut, matière à réflexion. Presque tous le connaissent, Il paraît que cette écriture est très souvent lue pendant les services funèbres. S'il y a un temps entre tous où j'aimerais prêcher à un service funèbre, ce serait à celui de ce monde qu'il meure et qu'il renaisse de nouveau. Je crois que j'ai noté ici Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 1 à 7. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans le domaine de mon Père. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais aller préparer une place pour vous, je reviendrai et vous recevrai moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas, mais comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne peut aller vers le Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez dû connaître mon Père aussi. Et dès ce moment, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous voulons nous y reporter de nouveau, à l'avenir. Nous voulons simplement apporter une petite leçon à l'Église. Hier soir, j'étais à Yuma, Arizona, où j'habite tout près maintenant. La dernière fois que je suis venu ici, j'habitais à Jeffersonville, dans l'Indiana, quand j'étais venu ici. Maintenant, j'habite en Arizona, à la suite d'une vision qui m'y a envoyé il y a quelques années. Et j'habite là maintenant. Je n'ai pas d'assemblée là-bas. Frère Green, notre frère ici présent, a établi un tabernacle. Auparavant, et c'est là que l'Église de Dieu et les assemblées de Dieu avaient leur rassemblement. Et les deux assemblées ont fusionné. Et je crois qu'ils sont tous allés vers le frère Brock et le frère Gilmore, et ils ont laissé l'Église ouverte. Et le frère Perry Green du Texas, qui est associé avec nous, est venu et il a pris la place. Nous sommes heureux d'apprendre que frère Green a de nouveau ouvert cette assemblée qui était fermée. Hier soir, parlant à Yuma, pour les hommes d'affaires du plein évangile, j'ai parlé sur l'enlèvement. Maintenant, c'était peut-être un sujet étrange à discuter à un banquet, mais presque tous les convives étaient des chrétiens. Et c'est ainsi que se font nos tournées comme celle-ci, ou bien dans une église. Je pourrais dire, combien d'entre vous sont chrétiens? Probablement, toutes les mains se lèveraient. Vous êtes chrétiens. Alors, si nous sommes chrétiens, je pense que nous devrions le proclamer. On ne devrait pas avoir à le deviner. Nous sommes avertis de ce que sera notre avenir. Eh bien, je veux parler ce soir sur le sujet suivant. Les choses qui doivent être. Et maintenant, de même que je parlais de l'enlèvement hier soir, de même, je veux en parler ce soir pour que je puisse lier le message d'hier soir à celui de ce soir. Maintenant, il va y avoir une extase, un ravissement, nous le savons, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, Jésus est ici et nous parle. Il est venu le premier pour nous préparer une place. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Alors, il parlait aux Juifs. Il disait, « Puisque vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comme vous avez cru en Dieu, croyez en moi. » Parce que je suis le Fils de Dieu. Vous voyez, en d'autres termes, moi et mon Père sont un. Mon Père habite en moi. Et moi, que pensez-vous que je fais? Ce n'est pas moi qui le fais. C'est mon Père qui vit en moi. C'est lui qui agit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était facile pour ces Juifs, à qui on avait enseigné pendant des générations, de croire qu'il y avait un grand Dieu surnaturel. Mais de penser que ce Dieu était descendu sur terre et se manifestait en la personne de son Fils Jésus-Christ, Dieu manifesté dans un tabernacle de chair, c'était un peu plus qu'il ne pouvait comprendre. Mais il a dit, « Maintenant, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi, car dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs maisons, et je vais vous préparer une place. » La vie de Jésus était destiné à se terminer ici sur terre. Il avait montré au peuple et leur avait prouvé qu'il était Jéhovah, incarné, annoncé par les grands signes et les prodiges et les citations de la Bible qu'il avait mentionnées se rapportant à lui. Et il prouva qu'il était Dieu incarné. Maintenant, dit-il, quand vous verrez que ma vie se termine, sa fin a une raison d'être, et je pars pour vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Par là, Jésus dit à ses disciples que cette vie ne finit pas à la mort. Maintenant, en disant que ceci était un texte funèbre, rappelez-vous, la mort est là devant nous, et nous le savons. Il peut y en avoir ici ce soir, dans ce bâtiment, qui ne sortiront pas vivants. C'est cela l'incertitude de la vie. Dans 5 minutes, ce jeune homme en bonne santé ici présent sera peut-être un cadavre, cela est vrai. Et aussi peut-être que dans 5 minutes, nous serons tous dans la gloire. Nous ne le savons absolument pas, nous sommes dans les mains de Dieu. Jésus a dit qu'il ne savait pas lui-même quand son heure viendrait, mais que cela était uniquement dans les mains du Père. Maintenant, il leur disait qu'après la mort, il y a la vie, parce que je vais vous préparer une place, c'est-à-dire les recevoir, montre qu'il y a, il leur parlait, qu'il y a une vie quand cette vie est finie. Et quelle consolation cela devrait être pour nous tous de savoir qu'après cette vie, quand elle est terminée, il y a au-delà une autre vie où nous entrons. Et en vieillissant, cela devient de plus en plus une réalité pour vous. Quand vous commencez à voir les jours de votre vie s'approcher de leur terme, alors vous commencez à faire vos bagages plus soigneusement, vous tenant prêt pour ce grand événement. Ce n'est pas continuer la même vie dans un autre monde, un autre endroit. Votre naissance ici était prévue. Je pense que chacun de vous sait que notre naissance était préparée. Saviez-vous que votre être ici-bas n'est pas simplement le fait d'un mythe ou d'une pensée? Tout a été intégralement prévu par Dieu avant la création du monde que vous voyez. Dieu infini savait l'être infini. Il devait connaître chaque mouche qui devait exister sur la terre et combien de fois elle clignerait de l'œil. C'est l'infini, vous voyez. Vous êtes nos petits esprits ne peuvent imaginer ce que infini signifie. Dieu infini, il sait tout, donc il pourvoit à tout. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Nous connaissons l'heure que nous vivons. Nous connaissons ce qu'il y a devant nous. Nous revoyons ce que nous avons vécu. Et le livre de Dieu est la révélation de Jésus-Christ, de ses œuvres à travers les siècles, jusqu'au livre de l'Apocalypse et de ses promesses qui doivent se réaliser. Car toutes les promesses sont vraies. Dieu ne peut pas dire un mot sans qu'il se trouve confirmé. Chaque mot qu'il dit doit se réaliser. Avant la création du monde, quelques personnes bouleversent la Genèse quand elles disent « Dieu se répète ». Non, c'est seulement votre incompréhension. Vous voyez, Dieu au commencement dit « Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit ». Le monde était dans les ténèbres et le chaos. Même quand il a dit « Que la lumière soit », des centaines d'années auraient pu s'écouler avant que la lumière jaillisse. Mais quand il a parlé, elle devait jaillir. Il doit en être ainsi. Vous voyez, il a prononcé sa parole. Les semences étaient au-dessous de l'eau. Quand il a asséché la terre, alors les semences ont germé. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Il a parlé par les prophètes. J'en ai parlé hier soir. Si nous prenons Ésaïe, il dit « Une vierge concevra. Qui pourrait penser qu'un homme comme les autres puisse prononcer une telle parole ?»« Une vierge concevra. » Mais c'est parce que un prophète est le reflet de Dieu. Il est destiné à être incapable de prononcer ses propres paroles, mais il doit transmettre la parole de Dieu. Il n'est qu'un reflet et il est le porte-parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a dit une vierge concevra. Il ne pouvait probablement pas comprendre ce qu'il disait, mais Dieu avait parlé par sa bouche parce qu'il avait promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Il a annoncé cela 800 ans avant son accomplissement, mais cela devait arriver. Finalement, ces paroles de Dieu s'ancrèrent dans le sein d'une vierge et elle donna naissance à Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son nom sera Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Prince de la Paix, Père éternel. Il devait en être ainsi, parce que Dieu l'avait dit par la bouche de son prophète. Et tout ce que Dieu dit doit s'accomplir en conséquence. Nous savons que Jésus est parti pour préparer une place, pour recevoir un peuple à côté de lui. Quel est ce peuple? J'espère que nous faisons partie de ce peuple ce soir. S'il n'en est pas ainsi, mes amis, Dieu a préparé un chemin, une condition pour que nous puissions être compris dans ce peuple si nous le désirons. Mais remarquez, maintenant, dans ce monde à venir, il y a un monde à venir. Comme je l'ai dit, votre naissance ici-bas était prévue. Dieu savait que vous viendriez. Et maintenant, vous savez même les choses que vos parents ont faites. Maintenant, les gens pensent que ce n'est pas transmis de génération en génération, mais cela est. Dans l'Épître aux Hébreux, je crois, vers le 7e chapitre, je crois que Paul l'a écrite, il est parlé d'un grand événement qui est arrivé à Abraham. Il avait payé la dîme à Melchisédek après le massacre des rois. Et maintenant, il est dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand il a rencontré Melchisédek, revenant du massacre des rois. Et puis, il estimait que Lévi avait également payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, son arrière-grand-père. Car il transmet les fautes des gens sur leurs enfants de génération en génération, pour ceux qui n'obéissent pas à sa loi. Vous voyez, vous fûtes tous prévus par Dieu. Rien n'est laissé au hasard avec Dieu. Il sait tout. Tout a été préparé, prévu, depuis des générations, pour que vous puissiez être ici ce soir. Le saviez-vous? Réfléchissez. À un moment donné, je le répète encore une fois, vous, à un moment donné, étiez dans les reins de votre père. Alors, à l'époque, il ne vous connaissait pas, et vous ne le connaissiez pas non plus à cette époque. Mais vous voyez, vous étiez alors dans le terrain de semence, dans le sein de votre mère par le lien sacré du mariage. Et puis, vous êtes devenu une personne créée à l'image de votre père. Puis, il y a eu la communion. Maintenant, il n'existe qu'une seule façon pour vous d'être fils ou fille de Dieu, parce que vous devez l'être pour avoir la vie éternelle. Et il y a une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu, une seule forme de vie éternelle, celle de Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez être en lui toujours. Le germe de votre vie spirituelle ce soir était dans Dieu le Père avant même l'existence d'un molécule, vous voyez? Et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du germe de vie qui était en Dieu comme fils de Dieu. Maintenant, vous existez après que sa parole soit venue en vous pour éclairer ce siècle. Vous êtes l'expression de la vie de Dieu en vous parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. En conséquence, vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez? Vous êtes dans, maintenant, vous êtes créé. Vous êtes dans cette église ce soir parce que votre devoir est de proclamer Dieu à cette nation et à son peuple et à cette région à laquelle vous appartenez. Où que vous soyez, Dieu savait que vous y seriez, parce que vous devez être une de ses semences ou un de ses attributs, vous devez l'être. Si jamais, si vous obtenez la vie éternelle, alors ce sera toujours la vie éternelle. Et Dieu savait, avant la création du monde, que vous seriez ici ce soir. Et quand la parole ou l'eau, la purification de l'eau de la parole tomba sur vous, vous êtes devenu un être vivant. Maintenant, vous êtes en communion avec votre Père, Dieu, comme vous l'êtes avec votre Père terrestre. Vous voyez, vous, sujet du roi, pas des citoyens, mais vous êtes les enfants, les fils et les filles du Dieu vivant, si la vie éternelle est en vous. S'il en est ainsi, Jésus est la plénitude de Dieu proclamé. il fut la plénitude de la divinité corporellement. En conséquence, quand il est venu sur terre en chair et en os, vous étiez en lui parce qu'il était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La parole s'est faite chair. Donc vous marchiez avec lui, vous étiez en lui quand il était sur la terre, vous souffriez avec lui et vous êtes morts avec lui, vous avez été ensevelis avec lui et vous êtes ressuscités avec lui et vous êtes proclamés comme attributs de Dieu, établis dans les lieux célestes, déjà élus, ressuscités à une vie nouvelle et installés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, cela signifie tellement de choses, Église. Cela a une si grande signification pour nous de nous voir réellement en Jésus-Christ. Maintenant, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas vivre selon des credos, nous ne pouvons pas vivre d'après des professions de foi. Nous devons vivre d'après la parole, parce que l'épouse est une partie de l'époux, comme n'importe quelle épouse est une partie de son mari. En conséquence, nous devons être cette épouse de la parole. Et quelle est cette épouse de la parole? La manifestation de cette heure présente, l'épouse, pas un credo ou une confession de foi, mais l'oracle vivant de Dieu, un attribut vivant de Dieu, répandu dans le monde, les attributs de Dieu, la formation de l'épouse qui doit être exprimée à cette heure précise que nous vivons maintenant. Martin Luther ne pouvait pas exprimer les attributs que nous exprimons aujourd'hui, parce qu'il était au commencement la résurrection du grain de blé mis en terre. Maintenant, je vais rappeler cela de nouveau. Vous avez probablement lu ce livre, cet Allemand se moquant de moi et disant que j'étais le plus fanatique de tous les fanatiques. Il était absolument contre tout ce qui s'appelait Dieu. Il se moquait même de Dieu. Il disait, un Dieu qui pouvait séparer la mer Rouge et faire traverser son peuple et s'installer les mains croisées sur son ventre, et pendant l'âge des ténèbres, tous ces gens mourir et souffrir, et ses petits-enfants être dévorés par les lions. Vous voyez, tout le programme, l'Église tout entière est construite sur la révélation divine. Jésus dit au chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu, « Ni la chair, ni le sang ne t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. » Qu'était-ce? Une révélation de celui qui est. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez, la révélation de Jésus-Christ en ce moment précis n'est pas ce qu'elle était à un autre moment, ce qu'il était alors. La Bible exprime la croissance de l'épouse dans toute sa grandeur. En conséquence, si le grain de blé du Christ devait être enterré, de même l'épouse devait être ensevelie durant l'âge des ténèbres. Tout grain qui va en terre doit mourir, sinon il ne peut pas se manifester, se reproduire. Et la grande Église qu'il a établie le jour de la Pentecôte en envoyant le Saint-Esprit devait souffrir le martyr et entrer dans le limon, dans la terre, pendant l'âge des ténèbres, pour ressusciter au siècle de Luther et devenir, dans toute sa grandeur, l'épouse de Jésus-Christ jusqu'à ce jour. Vous voyez, en aucune façon, donc l'épouse viendra en extase, et tout est préparé et soutenu par Dieu. Depuis le commencement, il savait tout sur chaque homme, chaque endroit, et c'était tout préparé. Dieu savait qui serait ici, et quand il a fait en sorte que nous arrivions là, et il est allé nous préparer une place, et quand nous arriverons, tout sera préparé exactement comme cette soirée a été préparée, comme cette heure est préparée. Sa grande préscience lui dit toutes ces choses à l'avance. Il est omniprésent parce qu'il est omniscient, omniscient parce qu'il est omniprésent. Donc, par sa préscience, maintenant, il ne peut pas être simplement comme le vent sur la terre, parce qu'il est un être. Il n'est pas simplement un mythe, il est un être. Il habite quelque part, il habite même dans une maison, il habite dans un endroit appelé ciel. et en conséquence, par sa totalité, étant omniprésent, étant omniscient, connaissant toutes choses, alors il est omniprésent parce qu'il connaît toutes les choses. Vous avez grandi depuis votre naissance. Quand vous êtes né et avez été présent dans ce monde, Dieu savait que vous alliez être ici, sur cette terre, et que vous grandiriez depuis votre naissance jusqu'à votre maturité. Les choses qui vous paraissaient si étranges pendant votre enfance, quand vous étiez enfant, vous semblent maintenant très réelles. Vous ne pouviez pas les comprendre quand vous étiez enfant, mais maintenant que vous êtes adulte, vous commencez à comprendre et à découvrir que tout fut très bien fait. Cela signifie vraiment quelque chose pour vous maintenant. C'est la même chose pour votre naissance spirituelle. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas quand vous êtes un petit bébé et vous venez à l'autel et vous donnez votre vie à Christ. Vous faites des choses tellement étranges. Vous vous demandez pourquoi vous les avez faites. Mais après quelque temps, quand vous grandissez, que vous devenez des chrétiens adultes, alors vous les comprenez. Vous voyez, vous avez compris quelque chose et vous voyez pourquoi vous deviez le faire. Votre naissance spirituelle, votre naissance physique illustre votre naissance spirituelle. Combien cela vous allait bien. Pendant que vous grandissiez dans cette vie, tout s'enchaînait très bien parce que vous aviez été créé dans ce but. Cela n'a-t-il pas été une chose étrange, le soir où vous êtes entré, hésitant, à la mission sous la tente, ou dans la petite église quelque part au coin d'une rue, et un prédicateur prêchait sur un sujet particulier, et vous vous êtes dirigé directement à l'autel. Vous voyez, Dieu savait cela avant la création du monde. Vous voyez, vous ne saviez pas pourquoi vous l'aviez fait, mais maintenant, vous le comprenez. Vous savez ce qui est arrivé. Cela vous convient si bien dans cette vie, et cela vous conviendra aussi dans la vie à venir. Ce monde et la vie paraissent avancer en même temps que vous vieillissez. Tout semble aller de pair avec vous. Je ne crois pas qu'une personne soit ici par hasard. Maintenant, réfléchissez. Quand vous êtes venu au monde, tout devait être préparé à l'avance pour vous, et, ou plutôt longtemps préparé à l'avance pour vous. Je peux à peine comprendre comment nous ne voulons pas ou ne pouvons pas avoir confiance en un Dieu que nous pensons avoir été capable de préparer toutes ces bonnes choses pour nous. Il nous a amenés dans ce monde de chaos où nous sommes maintenant et a préparé les bonnes choses de notre vie ici-bas. Combien plus nous pouvons lui faire confiance qu'il nous préparera les choses à venir. Vous voyez, les choses éternelles. Je le répète, cela paraît très bizarre. Et je ne crois pas que le ciel est un endroit tel que ma mère avait l'habitude de le décrire. Je crois que l'Église a grandi à cause de cela. Je pense que nos ancêtres croyaient, il y a 200 ou 300 ans, que chaque être qui mourait montait au ciel, avait une harpe et s'installait là-haut sur les nuages et jouait de la harpe. Alors, ils savaient qu'il y avait un endroit appelé ciel, Et s'il en était ainsi, tous les musiciens seraient mieux placés que nous, vous voyez? Mais ce n'est pas un endroit de la sorte. On n'y joue pas du tout de la harpe. Je ne crois pas que la Bible nous enseigne cela. Cela était une croyance qu'ils avaient avant que la réalisation complète de la parole se réalise, avant l'ouverture des 7 sceaux qui nous est promise pour cet âge. Je crois que le ciel est un endroit aussi réel, de la même façon que l'endroit où nous sommes, est un endroit réel. Vous voyez, car Dieu a commencé notre croissance spirituelle ici même. Et je crois que le ciel est un endroit tout aussi réel que celui-ci où nous ne sommes pas installés pour l'éternité, assis sur un nuage. Non, nous ne nous contenterons pas de jouer de la harpe pour tous et pour toujours. Nous nous dirigeons vers un endroit réel. Nous allons accomplir des actes. Nous allons vivre. Nous travaillerons, nous amuserons, nous vivrons une vraie vie éternelle. Nous nous dirigeons vers un ciel, un paradis. De même qu'Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, s'amusaient dans le jardin d'Éden avant le péché, de même, nous sommes sur le chemin du retour. Nous y allons directement. Le premier Adam nous en a chassé par le péché, le second Adam nous y ramène par sa vertu, nous justifie et nous ramène. Pour ceux d'entre vous qui vous engagez maintenant sur la route du message de justification, je veux que vous l'entendiez, et vous êtes partis, n'est-ce pas, pour y arriver. Il y a quelque temps, j'en ai parlé ici même. Considérez comment vos parents terrestres, avant votre naissance, avant même de savoir que vous alliez naître, ont tout préparé pour votre venue. Maintenant, pensez simplement à cela. Vos parents terrestres ne sont, ces parents terrestres, que l'image d'un parent céleste. Si nous savons faire de bons cadeaux à nos enfants, combien plus votre Père céleste sait faire de bons cadeaux à ses enfants. Jésus a dit ces paroles. Vous voyez, vos parents se sont préparés à votre venue. Ils ont fait un petit berceau, ou ils en ont acheté un, des petits chaussons, des petits vêtements, etc. Ils ont tout préparé pour votre arrivée, préparé avant même que vous soyez sur terre. Jésus est parti préparer notre venue là-haut. Maintenant, remarquez, dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs maisons. Ce n'est pas l'intention d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la parole, parce que nous ne sommes pas ici pour cela. Il est écrit au chapitre 22 de l'Apocalypse, « Quiconque ajoutera ou retranchera un mot à cela. » Mais permettez-moi simplement de dire ceci, non comme une addition, mais simplement pour souligner un point. Dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs sortes de maisons. Je ne crois pas que lorsque nous arriverons au ciel, nous serons, tout le monde aura exactement la même apparence. Je ne crois pas que tous seront blonds ou bruns, ou petits, ou tous gros, ou tous géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Le monde le prouve. Il y a de grandes montagnes et de petites montagnes. Il y a des plaines, il y a des déserts, il y a des choses différentes, parce qu'il l'a fait et voulu ainsi. Et il a fait les saisons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Il a fait les saisons. Cela montre qu'il est un Dieu de variété. Il vous a fait différent. Certains hommes sont vantards et d'autres sont dogmatiques. D'autres sont beaux et d'autres gentils. Bref, vous trouvez toutes sortes de gens différents. Et dans son royaume, vous voyez, comparez Pierre et André. Vous voyez, André était le combattant de la prière. Il restait constamment à genoux. Et l'apôtre Pierre était un de ces feux ardents qui prêchaient et ainsi de suite. Paul était d'un genre plus érudit, plus comme un prophète ou quelque chose de ce genre, et il se tenait à l'arrière-plan. Et vous voyez, Moïse a écrit les 4 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est lui qui a écrit l'Ancien Testament. Le reste de l'Ancien Testament, ce sont les lois, les rois et les psaumes, et ainsi de suite, et ce que quelqu'un a écrit au sujet des prophètes. Mais Moïse a écrit les lois. Les 4 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Et puis Paul a écrit le Nouveau Testament, cela est vrai. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit les faits qui ont eu lieu, et ainsi de suite. Mais Paul a séparé la loi et la grâce et les a mises à leur place. Vous voyez, il a écrit le Nouveau Testament, il nous a donné les écrits du Nouveau Testament, mettant en ordre la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, beaucoup, beaucoup de maisons, beaucoup de sortes de maisons, comme beaucoup de sortes de collines, beaucoup de sortes de rivières, de sources, de lacs, ils étaient déjà là quand vous êtes nés, parce que la gentillesse de votre Père céleste les a mis là, parce que certains aiment les montagnes, d'autres l'eau, d'autres les déserts. Ainsi, vous voyez, avant votre venue, ils connaissaient votre nature, est-ce que vous seriez. Ainsi, il a fait sa création pour que vous puissiez y prendre plaisir. Oh, je pense qu'il est un Père extraordinaire, vous voyez, parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Je suis si heureux qu'il ait fait les montagnes. J'aime les montagnes, j'aime cela. Là où d'autres disent, oh, je ne peux pas voir cela, il a dû vider tout son mortier là, eh bien, il l'a vidé pour que je puisse y prendre plaisir. Vous comprenez? De même, lorsque vous dites « j'aime les plaines » ou « je peux voir très loin », eh bien, nos natures sont différentes et nous sommes tous les deux chrétiens. Mais le Père savait que vous viendriez et il a tout préparé pour vous avant votre arrivée. Amen. À votre arrivée, il avait déjà tout préparé pour vous avant que vous veniez. N'est-ce pas merveilleux de penser à tout ce qu'il a fait? Maintenant, mais rappelez-vous, ce sont seulement des dons temporaires comme exemple. Maintenant, nous savons que Moïse, en construisant le tabernacle dans le désert ou en le préparant, a dit qu'il avait tout fait d'après l'ordre qu'il avait vu dans le ciel. Vous voyez, de sorte que les choses terrestres n'expriment que ce que sont les choses éternelles. Et cette terre où nous vivons aujourd'hui est si grande. Nous l'aimons et nous aimons en respirer l'air et y vivre et voir les fleurs et tout. Et si ceci ici-bas est seulement la représentation, celui qui meurt ne représente seulement que celui qui est éternel. Quand vous voyez un arbre luttant, se débattant pour essayer de vivre, cela signifie qu'il y a un arbre quelque part qui n'a pas besoin de le faire. Quand vous voyez un homme ici, luttant pour vivre, quelqu'un dans un hôpital, ou sur un lit de douleur, ou dans un accident, luttant, et le râle de la mort dans la gorge, et se débattant et pleurant, et hurlant pour la vie, qu'est-ce que cela signifie? Il y a un endroit quelque part, il y a quelqu'un qui ne lutte pas et ne hurle pas pour cela. Vous voyez, il ne le fait absolument pas. Maintenant, ces choses sont pour nous des dons temporaires, exprimant simplement qu'il y a un don qui est éternel. C'est ce que Jésus est allé préparer, le don éternel pour nous. Maintenant, il dit simplement qu'il y en a un plus grand de la même espèce, parce qu'ils sont d'une seule et même espèce. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, si ce tabernacle terrestre de notre séjour est dissous, nous en avons un autre qui nous attend déjà. Exactement comme un petit bébé, ses petits muscles dans sa mère se tordent et se tournent. Et, vous voyez, remarquez, vous pouvez prendre une femme aussi mauvaise soit-elle, quand elle devient mère, un peu avant que son enfant naisse, il y a de la gentillesse chez cette femme. Elle l'a autour d'elle. Il y a toujours quelque chose. Elle est plus tendre. Pourquoi? Il y a l'esprit d'un petit ange qui attend de recevoir son corps terrestre. Au moment où il naît, le souffle de vie entre en lui. Dieu le lui a insufflé et il devient une âme vivante. Alors, au moment même où cet enfant naît, le corps spirituel est là pour le recevoir. Et alors, quand ce corps est arrivé ici sur cette terre, comme le bébé est arrivé, il y a aussi un corps immortel qui attend de recevoir à nouveau cet esprit en lui. Oh, quelle grande chose! Nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Amen! Des bébés en Christ, des enfants de Dieu, attendant la délivrance totale à la venue de notre Seigneur Jésus pour nous recevoir lui-même quand le corps mortel entrera dans l'immortalité. De même, toutes les choses qu'il a faites prédisent les choses qui doivent arriver. Exactement comme le corps qu'il vous donne ici, exactement comme ce corps qu'il vous a donné pour vivre annonce simplement qu'il y en a encore un plus grand avenir. Vous voyez, si nous portons ou avons porté l'image terrestre, nous porterons également l'image céleste qui ne renferme aucun mal, aucune maladie, mort, tristesse. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit ici, prêchant sur la puissance de transformation de la parole de Dieu, comment ce corps qui renferme le mal en lui et toute cette civilisation moderne dans laquelle nous vivons est démoniaque. Vous ne le croyez pas? La Bible dit, ce monde-ci, chaque gouvernement, nous ne voulons pas le croire, mais la Bible dit clairement, chaque gouvernement, chaque royaume de ce monde est possédé par le diable qui le gouverne, par Satan. Remarquez, Satan emmena Jésus au sommet d'une montagne et lui montra tous les royaumes terrestres existants et même ceux à venir. Et Satan les proclama comme sa propriété. Et Jésus ne discuta pas avec Satan, qui est le maître de ce monde. Vous voyez? Et Satan dit, je te les donne si tu te prosternes devant moi et m'adores. Vous voyez? Il essayait de les donner à Jésus sans sacrifice. Vous voyez? C'était un marché qu'il allait faire avec lui. Mais le monde avait péché, et la rançon du péché était la mort, et il devait mourir. C'est pourquoi Dieu s'est incarné afin de pouvoir attirer la mort sur lui pour payer la rançon. Il n'y a rien à attendre en retour. La rançon est payée absolument, librement. La dette est payée en totalité. Maintenant, c'est à lui. Et nous sommes les représentants de son royaume, tous réunis ici ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre roi, établi dans les lieux célestes. Maintenant, dans ce monde où nous vivons, c'est l'éducation. Je vous le prouve. L'éducation, la science, la civilisation et toutes ces choses qu'apparemment nous apprécions tant aujourd'hui viennent de Satan et périront. Vous dites, frère Branham, la civilisation? Oui, monsieur, cette civilisation est l'œuvre de Satan. Le chapitre 4 de la Genèse le prouve. Le fils de Caïn, vous voyez, commença cette civilisation, construisant des villes et des organes, et ainsi de suite. Et la civilisation vient par la science. La science est ce que le démon a vendu à Ève dans le jardin d'Éden, et ce qui l'a fait désobéir au commandement de Dieu. Il y aura aussi une civilisation dans le monde où nous irons, mais ce ne sera pas cette sorte de civilisation, car dans notre civilisation, nous avons la maladie, le chagrin, la luxure, la mort. Tout est mauvais dans cette civilisation. Mais dans l'autre civilisation, il n'y aura aucune de ces choses. Nous n'avons pas besoin de la science. De toute façon, la science est une déformation de la vérité. Vous voyez, vous désintégrez l'atome pour désintégrer l'atome et vous faites ça et ça pour vous faire sauter. Vous prenez de la poudre et la percutez et vous tuez quelque chose. Vous prenez la voiture, puisez l'essence de la terre et les matières premières et les travaillez pour qu'elles puissent exploser. Vous prenez la route à 150 miles à l'heure et vous tuez quelqu'un. Vous voyez? Oh, nous sommes si nerveux, si bousculés dans une telle hâte. Nous devons pousser et prendre. Voyez-vous, tout cela vient du diable. Il n'y aura ni automobile, ni avion, ni découverte scientifique dans le royaume de Dieu. Non, il n'y aura aucune éducation. Ce sera une éducation tellement supérieure à celle-ci que nous ne pouvons même pas la concevoir. Vous voyez, l'éducation, la civilisation, tout cela vient de Satan. Maintenant, si vous dites, frère Branham, pourquoi lisez-vous alors? Vous voyez, c'est comme si vous me demandiez pourquoi je porte des vêtements maintenant. Dans la civilisation qui était prévue au début, ils n'avaient pas besoin de vêtements. Ils étaient voilés. Ils n'avaient aucune raison de porter des vêtements parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant, vous découvrez que nous sommes nus, le péché s'est installé sur terre. Alors, nous devons porter des vêtements. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'y avait pas le péché. Vous voyez? Maintenant, c'est la même chose pour la civilisation. Tout ensemble, nous lisons, nous écrivons, nous faisons ceci. Mais nous ne le faisons jamais parfaitement. Nous ne le faisons jamais bien. Parce que notre Dieu, pour le faire, est un Dieu de communisme. Vous voyez? Cela ne vient pas de Jésus-Christ. Nous venons à Jésus par la foi. Et non pas parce que nous pouvons prouver scientifiquement, mais parce que nous croyons. Je ne peux pas vous prouver scientifiquement qu'ici ce soir, il y a un Dieu, mais pourtant, je sais qu'il est ici, et je le soutiens par ma foi. Abraham n'aurait pas pu vous prouver scientifiquement qu'il allait avoir un enfant de cette femme, ayant presque 100 ans, mais sa foi l'a soutenu. Vous voyez, il n'avait besoin d'aucune preuve scientifique. Le docteur aurait dit, le vieil homme est fou, osait dire qu'il allait avoir un enfant de cette femme, lui âgé de 100 ans et elle de 90 ans. Mais vous voyez, Dieu l'avait dit, aussi la science est inutile, mais il faut la foi pour croire en la parole de Dieu, pas la science. Nos écoles et autres choses sont également inutiles. Dieu n'a jamais dit, allez et bâtissez des écoles. Ou même que la Bible est des écoles, le saviez-vous? Il a dit, prêchez la parole, c'est la stricte vérité. Notre système d'éducation nous a éloignés de Dieu plus que tout ce que je connais. C'est la vérité. Plus loin de Dieu. Ne bâtissez pas d'écoles, d'hôpitaux et ainsi de suite qui sont pour le monde et pour ce groupe. Je n'ai rien contre eux. Ils jouent leur rôle, mais ce n'est pas encore cela. Nous construisons un si bel hôpital et utilisons les meilleurs remèdes que nous avons. Et des milliers de malades meurent tous les jours. Mais, ô mon Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas de chagrin. Amen. Il n'y a aucun besoin de ces choses terrestres, car nous sommes passés de ces choses dans les réalités de Dieu. Quand nous luttons très fort pour faire des découvertes scientifiques, et plus nous devenons scientifiques, plus nous attirons la mort sur nous. Nous livrons un combat perdu d'avance. Aussi, éloignons-nous-en et par la foi, croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et recevons-le ce soir. Il est le seul. Que nous prépare la science? Plus de morts. C'est vrai, les Spoutniks et toutes ces choses en l'air, et toutes ces choses qui répandent la mort, et tout sur la terre. Ne regardez pas cela. Levez la tête plus haut que cela, vers le ciel. Regardez vers Jésus, et qui est assis à la droite de Dieu ce soir, éternel, pour intercéder pour notre foi, parce que nous croyons que sa parole est la vérité. Maintenant, nous constatons que cette vie renferme toutes sortes de maux, donc la vie à venir n'en aura pas. Cette vie-ci a la luxure, la maladie, la mort. Pourquoi? Ce n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Ici-bas, c'est une léproserie. Combien savent ce qu'est une léproserie? Eh bien, c'est là où nous vivons. Une léproserie est une maison dans laquelle on met tous ces malades. Eh bien, c'est exactement ce que le péché a fait. Il nous a mis dans une léproserie. Nous, vous, personne d'autre n'y était admis, parce qu'il régnait toutes sortes de microbes dans les léproseries, et on attraperait ces microbes, et on serait malade à notre tour. Mais le péché nous a conduits dans cette maison pestiférée du diable. Mais l'autre est appelée la maison de mon Père. J'irai vous préparer une place. Sortez de cette léproserie et transportez-vous dans la maison de mon Père. Amen. Voilà, sortez de cette léproserie terrestre. Il est allé préparer un endroit parfait, où le mal n'existe pas, ni aucune maladie, ni la vieillesse, ni la mort. C'est un endroit parfait, vous appelant à cette perfection, et vous devez être parfait pour y arriver. La Bible dit, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et c'est un royaume parfait, aussi un peuple parfait doit y venir, parce que vous devez vous présenter et être unis à un Fils de Dieu parfait. Et vous devez être une épouse parfaite aussi. Comment pouvez-vous l'être autrement que par la parole parfaite de Dieu, qui est l'eau qui nous lave nos péchés? Amen. C'est vrai, le sang de Jésus-Christ. Pensez-y, la parole aux gouttes de sang, le sang, la parole de Dieu donnant son sang pour laver l'épouse. Amen. Oui, monsieur, elle est là, parfaite, vierge, pure. D'abord, elle n'a jamais péché. Amen. Elle fut entraînée dans le péché. Vous voyez, il y a là la maison du Père qu'il est allé préparer. Ce péché est venu par le sexe. Et à cause du péché, nous devons pécher avec le péché. De quelque façon que vous puissiez arranger la vieille histoire, elle doit tomber de toute façon. Elle ne peut y échapper parce qu'elle est condamnée, parce que Dieu l'a dit, elle est finie. Dieu va la détruire, il l'a dit. Il y aura une rénovation de la chose tout entière. Vous croyez cela? Au commencement, quand le monde naquit, quand Dieu a d'abord retiré l'eau de la terre, comme il retira l'eau du ventre de la mer, un monde est né. Oui, et les peuples commencèrent à y vivre quand Dieu les y a mis. Et alors, ils commencèrent à pécher. Et à l'époque de Noé, ils étaient baptisés par immersion. Puis, ils furent sanctifiés par le sang du Créateur tombant sur eux. Et maintenant, c'est le chemin par où vous êtes venus, par la justification de votre foi en Dieu. Vous avez été baptisés pour le repentir, ou pour la rémission de vos péchés. Vous avez confessé vos péchés devant Dieu. et à cause de cela, il vous a pardonné, et vous avez été baptisé pour montrer que vous aviez été pardonné, confessant aux gens et montrant au monde que vous croyez que Jésus-Christ était mort pour vous. Il a pris votre place, et maintenant vous êtes à sa place. Il est devenu comme vous pour que vous puissiez devenir comme lui. Puis le pouvoir sanctifiant de Dieu a débarrassé votre vie de toutes ses habitudes. Vous fumiez, vous buviez, vous faisiez des choses qui n'étaient pas bien, vous disiez des mensonges, et tout cela. Alors le pouvoir sanctifiant du sang de Jésus-Christ est entré dans votre vie. Il a balayé toutes ces mauvaises choses. S'il vous arrive de dire quelque chose qui ne va pas, vous dites rapidement, « Attendez une minute, excusez-moi, je ne voulais pas le dire de cette manière. » Vous voyez, le démon avait installé une trappe, mais vous avez eu la grâce de reculer. Si vous êtes un vrai chrétien, vous dites, « J'avais tort. » Oui. Alors, maintenant la chose suivante que vous avez reçue est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, Dieu, quand ce millénaire sera terminé, Dieu baptisera le monde par le feu. Cela bouleversera l'univers entier. Le ciel et la terre seront en feu, Pierre l'a dit. Et la chose aura un baptême de feu, la rénovation de la chose tout entière. Et puis il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est quand où habite la vertu, c'est là où nous sommes. D'êtres mortels, nous sommes devenus des êtres éternels. Quand la parole de Dieu a éclairé nos âmes et que nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu avec les attributs, la semence de Dieu en nous pour être les fils et les filles de Dieu le Père dans le ciel, criant « Abba, Père, mon Dieu » dans la propriété de mon Père. Maintenant, ce vieux monde doit périr parce qu'il est par le sexe et au commencement, il a été le fruit de la désobéissance, et nous sommes nés par le sexe à cause du péché, et le monde doit périr à cause du péché. Mais le monde qu'il nous prépare maintenant ne peut pas périr, parce qu'il l'a fait ainsi. Que deviendrions-nous si nous devions rester toujours dans ce corps? N'êtes-vous pas heureux qu'une chose telle que la mort existe? Maintenant, n'est-ce pas étrange? Mais maintenant, disons par exemple, il y a quelques années, j'étais un petit garçon, et maintenant, je suis un homme dans la force de l'âge. J'ai un ami installé ici, Monsieur Doge, et il a eu 93 ans il y a quelques jours. Regardez-le maintenant. Dans 40 ou 45 ans, ce sera moi. Maintenant, ajoutez-lui 40 ans. Où irions-nous? Le seul. Je suis heureux que quelque chose puisse nous sortir de cette maison pestiférée. Il y a une porte ouverte. Elle s'appelle la mort. Jésus est à cette porte. Amen. Il me fera traverser la rivière. Il me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte là-bas, appelée la mort. Et chaque fois que votre cœur bat, il vous rapproche d'elle. Et un jour, je dois me trouver devant cette porte. Vous devez y aller. Mais quand j'y arriverai, je ne veux pas être lâche. Je ne veux pas hurler et reculer. Je veux arriver à cette porte drapée dans les plis de sa droiture, non dans la mienne, mais dans la sienne. Ainsi, je sais que je le connais dans la puissance de sa résurrection, que lorsqu'il m'appellera, je sortirai d'entre les morts pour être avec lui, hors de cette maison de léproserie. Quel que soit l'endroit où ce corps pourra tomber, et quel que soit l'endroit où il arrivera, j'en sortirai un jour, parce qu'il me l'a promis. Et nous le croyons, oui monsieur, il nous empêche de tomber. Remarquez combien sur notre terre, une mère qui attend un bébé, combien le corps de la mère désire certaines choses. Je parle, je comprends, j'espère que tous les adultes comprendront. La mère, à la naissance du bébé, si quelque chose manque dans son corps, elle commence à avoir envie de certaines choses. Regardez comment papa... Oh, je me souviens que nous avons été élevés dans une famille tellement pauvre et nous avions à peine de quoi manger quand nous étions enfants. Beaucoup d'entre vous sont passés par là. Ainsi, il en est de même. Avant la naissance du bébé, la maman désire quelque chose et le papa se saignera aux quatre veines pour le lui donner. Vous voyez, c'est son corps qui en a besoin. le calcium et ainsi de suite de son corps et les vitamines dont elle a besoin, dont vous avez besoin pour être en forme. Vous voyez? Et son corps a besoin de choses, de nourriture pour l'enfant qui va venir. Et les parents font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'obtenir, pour que le bébé naisse dans les meilleures conditions possibles. Voyez ce que vos parents ont fait. La maman sent quand quelque chose est nécessaire. Vous voyez, son organisme est alerté. Vous comprenez que lorsque quelque chose est nécessaire, avant la naissance de l'enfant, la maman commence à en avoir envie. Maintenant, attendez un moment. Pourquoi avons-nous des élans de foi? Pourquoi nous réunissons-nous? Pourquoi est-ce que je réprimande les gens? Pourquoi est-ce que je vous demande instamment, femme pentecôtiste, d'abandonner les teintures et le maquillage et de ne plus onduler vos cheveux et autre chose de la sorte? Pourquoi dis-je cela? Parce que les pentecôtistes d'autrefois n'avaient pas l'habitude de faire ces choses. Ce n'est pas la bonne façon de suivre la Bible. Vous qui portez des shorts et des vêtements masculins, savez-vous que la Bible dit que c'est une abomination au regard de Dieu? Mais nous, nous l'autorisons. Pourquoi le Saint-Esprit pleure-t-il toujours? Il sait qu'il y a quelque chose qui manque ici-bas. Nous devons être entièrement à l'image de Jésus-Christ. Nous devons être les fils et les filles de Dieu. Nous devons agir comme des enfants de Dieu. Il y a longtemps, pendant que l'on racontait une petite histoire, je remarquais un frère de couleur assis dans le fond de la salle. Dans le sud, ils avaient l'habitude de vendre des esclaves. Quand ils avaient des esclaves ici, quand l'esclavage existait avant la proclamation d'émancipation. Et on allait acheter des gens exactement comme ils seraient allés acheter des voitures d'occasion chez un marchand. Ils avaient un tarif et ils vendaient des êtres humains exactement comme s'ils étaient des voitures d'occasion. Vous aviez aussi un tarif. Une fois, un acheteur est venu, un courtier, et il faisait le tour de ces grandes plantations et achetait des esclaves. Et il arriva à une certaine plantation où il y avait beaucoup d'esclaves. Et il voulait voir combien ils en avaient. Et ils étaient tous là dehors, en train de travailler. Et ils étaient là, tristes. Ils étaient loin de leur patrie. Ils venaient d'Afrique. On les avait amenés là. Les Boers les avaient amenés là et les avaient vendus comme esclaves. C'est pourquoi ils étaient tristes. Ils savaient qu'ils ne rentreraient jamais chez eux. Ils devraient vivre et mourir dans cette région. Très souvent, ils avaient pris des fouets et on les avait fouettés. Ils appartenaient à leurs propriétaires et ils pouvaient faire d'eux ce qu'ils voulaient. S'ils les tuaient, ils les tuaient. Et quoi que ce fût, ils l'avaient fait. C'est cela l'esclavage, comme Israël qui, bien qu'une nation nombreuse, fut emmenée en esclavage. Et ils devaient prendre ces pauvres esclaves. Ils servaient simplement. Ils pleuraient, vous savez. Ils étaient tout le temps tristes. Mais ils distinguèrent un de ces jeunes esclaves, un jeune homme. Il bombait la poitrine. Il portait haut la tête comme cela. Ils n'eurent jamais à le fouetter. Ils n'eurent jamais besoin de lui dire ce qu'il fallait faire. Aussi, le courtier dit, « Je veux acheter cet esclave. » On lui dit, « Il n'est pas à vendre. » Il dit, « Je voudrais l'acheter. » On lui répondit, « Non, il n'est pas à vendre. » Il dit, « Est-il le chef de tous les autres ?» On lui répondit, « Non, il n'est pas le chef, c'est un esclave. » Il répondit, « Bien, alors peut-être le nourrissez-vous autrement que les autres ?» On lui répondit, « Non, ils mangent tous ensemble là-bas dans la galère. » Il dit, « Qu'est-ce qui fait que ce garçon est tellement différent de tous les autres ?» Alors, il dit, « Il y a quelque chose. J'ai été intrigué pendant un moment aussi, mais ce garçon, un étranger d'Afrique, en Afrique, son père est le roi d'une tribu. Et bien qu'il soit un étranger loin de sa patrie, il se conduit comme le fils d'un roi. Il sait que loin d'ici, son père est roi d'une tribu. Et c'est pour cela qu'il se conduit bien, parce qu'il sait qu'il est le fils d'un roi. Oh, mes frères et mes sœurs, vous et moi, dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous donc comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des étrangers sur cette terre, mais notre conduite devrait être conforme au commandement de Dieu, puisque nous sommes les fils et les filles de Dieu. Notre conduite devrait tout faire selon la loi que Dieu a faite. Et c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement masculin. Elle commet une faute et un péché en se coupant les cheveux. La Bible dit, C'est même une chose extraordinaire pour elle de prier. Vous dites, et alors, quelqu'un est venu me voir, un pasteur très connu, il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, frère Branham, je veux te dire que tu vas ruiner ton ministère. Quoi, lui dis-je? Hurler après les gens comme tu le fais? Je répondis, je dis la vérité. Oh, je le crois, dit-il, je suis un pentecôtiste aussi. Je crois que les femmes ne devraient pas porter des cheveux courts, ni porter des pantalons, ni faire tout ce qu'elles font, se maquiller. Elles ne devraient pas le faire, mais Dieu t'a appelé pour prier pour les malades. Je répondis, il m'a appelé pour prêcher l'évangile. Vous voyez, je le crois, dit-il, mais tu penses que ce que tu fais soit nécessaire? Considère un peu, dis-je, que vous avez tous ces programmes de télévision et tout le reste. Je n'ai rien pour leur répondre que Dieu. C'est la vérité, dis-je. Je n'ai que Dieu pour lutter contre tout cela. Il dit, tu vas démolir ton ministère. Tout ministère, répondis-je, que la parole de Dieu démolira, doit être démoli. C'est la vérité, certainement, c'est exact. Eh bien, dit-il, tu le détruiras. Qui leur dira ce que je dis alors? Vous voyez, quelqu'un doit le dire. Quelqu'un doit se dresser pour proclamer la vérité, même si elle doit faire mal. Et les amis, les chrétiens et les gens qui croient que nous irons au ciel, le Saint-Esprit lui-même les façonnera selon la parole de Dieu. Il l'a dit, tu sais ce que tu devrais faire? Les gens croient que tu es un prophète. Tu devrais enseigner à ces femmes comment acquérir des dons de prophétie et des choses de ce genre, et des choses grandes et élevées, au lieu de rechercher les petites choses. Je dis, comment vais-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC, quand elles ne veulent même pas faire les choses ordinaires, les choses naturelles? Comment allez-vous leur parler de choses élevées quand elles ne veulent même pas commencer? Vous voulez être au haut de l'échelle avant d'avoir gravi le premier échelon. C'est la raison pour laquelle vous tombez, vous voyez? Commencez en bas et montez sous la conduite de Dieu, vous voyez? Dirigez votre vie avec toujours, suivez chaque miette de la parole que Dieu a commandé pour vous de faire. Maintenant, pensez combien ce Dieu, nous devrions nous conduire à agir en chrétien. Notre conduite devrait être celle de chrétien, parce que nous sommes des étrangers ici-bas. Ce n'est pas notre patrie. Non, nous n'avons été placés ici que temporairement. Nous devons avancer. Chacun de nous doit le faire. Maintenant, réfléchissez. Si Dieu, dans sa bonté, à la maman, avant sa naissance, le petit bébé a besoin de vitamines, et la maman dit, « Papa, je veux une pastèque ou un melon, je veux ça et ça. » C'est or, alors il fera tout ce qu'il pourra pour l'obtenir, parce qu'il a dit, il veut que son enfant naisse aussi parfait que possible. Vous voyez, il fera tout ce dont il est capable pour l'obtenir. Combien plus facilement Dieu peut obtenir. Il est le Créateur. Maintenant, réfléchissez combien il peut nous préparer un corps pour vivre comme son propre corps glorieux. Si nous voulons vivre, il y a quelque chose en nous qui nous incite à vivre. Il y a quelque chose en nous qui nous incite à faire le bien. Alors, Dieu appellera quelqu'un sur la scène ou en chair pour qu'il proclame la vérité absolue. Comment? Vous voyez? Cela vous montre que si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous commencez par pleurer. Dieu, éloigne ces choses de moi. Épargne-moi cela. Épargne-le-moi. Pourquoi? C'est nécessaire pour votre demeure céleste où vous vous dirigez et qu'il est parti vous préparer. Vous devez être une réelle épouse de la parole du Christ. Je prêchais il y a quelques jours sur le sacrifice à l'époque du rachat. Je prêchais dans le seul endroit où Dieu, la seule église où Dieu puisse rencontrer un homme. Il a dit l'endroit où il a mis son nom. Il a dit, je veux les rencontrer à l'endroit même, à la porte sur laquelle j'ai inscrit mon nom et nulle part ailleurs. Maintenant, il ne vous rencontrera pas à une porte méthodiste ou baptiste ou pentecôtiste ou n'importe quelle autre, mais il a inscrit son nom sur son fils. Jésus a dit, je suis venu dans le nom de mon Père. N'importe quel homme vient, n'importe quel enfant vient sous le nom de son Père. Je porte le nom de Branham parce que mon Père était un Branham et vous portez votre nom parce que c'était le nom de votre père. Et Jésus le Fils vint sous le nom de son père. Et il a dit, il a inscrit son nom. Sur cette porte où j'ai inscrit mon nom, là est le sacrifice. Et Jésus-Christ est le seul endroit où vous pourrez jamais trouver la communion et l'adoration de Dieu. Vous dites, viens, j'appartiens à l'Église. Cela ne change rien, vous devez être en Christ. Le prédicateur d'une certaine religion me disait l'autre soir, voyez, monsieur Branham, Jésus a dit, quiconque croit, la Bible dit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est né de l'Esprit de Dieu. Et j'ai répondu, la Bible ne dit-elle pas aussi qu'aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ s'il n'est éclairé par le Saint-Esprit? Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la Bible, elle doit vous pénétrer complètement pour que vous renaissiez complètement dans le Saint-Esprit, pour que vous témoigniez vous-même que vous savez qu'il est le Fils de Dieu. Et alors, si vous êtes une partie, si vous êtes un enfant de Dieu dans la parole de Dieu, comment pouvez-vous nier cette parole? Comment le Saint-Esprit peut-il vous faire croire un credo qui vous dit de faire quelque chose comme ceci, alors que la Bible dit autrement? Nous devons suivre une église et faire comme ceci ou cela, alors que la Bible vous dit clairement ce que vous devez faire. Alors que la Bible vous dit clairement ce que vous devez agir. Vous voyez? Et quand vous voyez cela, vous vous précipitez dans une église et vous vous liez à elle. Pas de levain, pas de credo, vous n'y gagnerez rien. Cela doit venir dans le ventre d'une femme avec le fœtus. Et alors, quand ce petit fœtus commence à se développer et commence à produire des germes, il ne produit qu'un germe humain. Il ne produit pas le germe du chien, le germe de la vache, il produit seulement le germe humain. Et quand un enfant de Dieu, quand ce prédestiné, c'est un mauvais mot à employer, mais je dois employer la Bible de Dieu, la préscience de Dieu pouvait prédestiner, mettre tout en œuvre pour sa gloire, quand cette semence prédestinée qui devait devenir vous et que Dieu vous a appelé, alors ce petit aigle de semence a entendu la parole de Dieu et elle bâtira un mot par-dessus l'autre, au-dessus de l'autre, au-dessus de l'autre. Elle ne se mêlera jamais à aucun credo. Remarquez, tous les jours dans ces portes, ils mangeaient de la nourriture cachère. Et on ne trouvait aucun levain parmi eux pendant toute la semaine. Est-ce vrai? Les cépages de l'Église continuèrent de monter et de grandir comme un germe, comme du pain azim. On ne trouvera aucun levain parmi vous. Il n'y a qu'un levain, la parole elle-même. C'est le seul. Et cette parole est Dieu. Et Dieu se fit chair dans la personne de Jésus-Christ qui est la porte. Là est la porte où je vous rencontre pour adorer Dieu si vous suivez ses commandements. En conséquence, si ce soir vous êtes entré ici et avez dit « J'offre ma vie à Jésus-Christ » et que vous n'ayez jamais reçu le Saint-Esprit, entrez en Jésus-Christ. Vous devez le faire, vous devez grandir en lui. Demandez à Dieu d'entasser la parole sur la parole jusqu'à ce que vous parveniez à être une statue vivante, à la stature parfaite d'un fils ou d'une fille de Dieu. Laissez les choses du monde s'écarter de vous. Jean a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous avez été trompés, vous avez eu l'amour des choses du monde, et vous avez été déçus, le diable vous a déçus, en empilant les choses ici et en montrant. Voyez, vous ne pouvez pas enlever un mot de cette Bible. Quelle a été la cause du premier péché? Non pas seulement parce qu'il y a eu un mensonge grossier, mais parce qu'Ève, à l'instigation du diable, a mal interprété un mot. Un mot a rompu la chaîne et Ève a refusé d'obéir à un mot. Ce fut le commencement de la Bible. Jésus est venu au centre de la Bible et il a dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. » C'est la parole totale de Dieu. Croyez-vous que ce soit sa révélation? La parole totale de Dieu. Et puis, au chapitre 22 de l'Apocalypse, Jésus va vers Jean dans l'île de Patmos. Et Jésus lui dit « Moi, Jésus, J'ai envoyé mon ange pour t'attester ces choses. Vous voyez, quiconque y ajoutera des paroles ou en retranchera, je lui ôterai sa part du livre de vie. Beaucoup disent, viens, je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il est le Fils de Dieu. C'est très bien. Puis ils en ajoutent, vous dites, j'ai été justifié, j'ai aidé le prédicateur, je crois en Jésus-Christ. Alors, vous devez naître de nouveau, vous devez être rempli de l'Esprit Saint. Vous voyez, enrichissez-vous toujours pendant que vous avancez. Peu à peu, grandissez, vous devez grandir jusqu'à parvenir à la stature d'un fils et d'une fille de Dieu. Oh, Dieu est capable de nous préparer et de nous donner ce désir dans notre vie que nous voulons voir quelque chose. Combien ici demandent plus de Dieu? Il va vous montrer qu'il y a encore plus pour vous. Vous voyez, vous le voulez, vos petites douleurs de la naissance arrivent. Vous voyez, vous voulez plus pour pouvoir être heureux et libre et parfait. Nous devons l'être. Comme ce petit germe de vie est dans le sein de Dieu, exactement comme le germe de vie est dans le sein de la maman. La croissance et le départ de Dieu partit nous préparer une place éternelle avec lui, pas dans un endroit pestiféré où se trouvent la mort, le péché, l'adultère et la pourriture de ce monde-ci. Si votre esprit est enclin à ces choses, cela montre qu'il n'est jamais entré en contact avec Dieu. Vous voyez, vous êtes emballé, votre esprit se leurre. Vous appartenez à une église et vous dites, bon, j'appartiens à ceci, ma mère appartient à cela. Peut-être était-ce très bien à l'époque de votre mère, mais les temps ont changé. Le message de Wesley n'aurait jamais, il ne pouvait absolument pas séduire Luther. Luther croyait à la justification, mais Wesley avait la sanctification. Les pentecôtistes vinrent. Il ne pouvait pas prendre simplement la justification et la sanctification. Ce fut là le moment de la restauration des dons. Maintenant, quittons cet endroit. Vous voyez, les trois étapes de la croissance de la vigne. La première, c'est une toute petite feuille. Luther sortit de la réforme. Très bien, c'était la tige. Observez la nature. Dieu et la nature travaillent en harmonie. Parce que Dieu est dans la nature. Puis vient le bourgeon, le pollen, l'air des méthodistes, puis viennent les pentecôtistes. Oh, certes, tout aussi parfait, vous voyez, exactement comme ce grain de froment paraît un grain parfait de froment. Ouvrez-le, il n'y a pas du tout de froment à l'intérieur. C'est une gousse, une enveloppe, un étui de froment. Mais il lui manque cette vie qui le fait mûrir. Vous voyez, les contemporains de Luther, excepté Luther qui avait reçu la vie, ont formé une dénomination. La première chose que vous en savez, c'est que c'est devenu une dénomination dont l'extrémité doit être brûlée. Vous voyez, la tige s'est desséchée, ce n'était qu'une gousse. Certains essayent encore de s'accrocher à cette vieille tige, ne sachant rien de Dieu. Ils sont morts, ils disent. Regardez, nous sommes une feuille, nous sommes luthériens, c'est vrai, mais regardez ce qu'ils sont maintenant, vous voyez. J'étais méthodiste et même j'étais pentecôtiste, mais regardez les pentecôtistes comme ils deviennent froids et compassés, et la façon dont tout le monde les quitte, vous voyez. Pourquoi? C'était une gousse de la vraie semence, vous voyez. Tous les autres étaient des gousses, mais ils sont devenus des confessions. Si vous dites « je suis pentecôtiste », aux yeux de Dieu, cela n'a pas plus de signification que si vous disiez que vous êtes catholique ou juif ou quoi que ce soit que vous puissiez être. Vous devez renaître. Cette vie qui vient par cet intermédiaire-là, ne restez pas dans l'épi, ne restez pas dans l'enveloppe, sortez vers la vie réelle. Maintenant, souvenez-vous, dans chaque réforme que nous avons eue par ces luthériens et autres, ils se sont constitués en une dénomination en moins de 3 ans. C'est vrai, chaque réveil a amené une organisation en 3 ans. Réfléchissez pendant combien de temps le message a continué. Pendant quelques 20 ans et pas d'organisation. Pourquoi? C'est la semence qui vient, qui se forme sous la cosse comme ceci. Maintenant, étant semée, elle doit rester exposée au soleil pour devenir la graine glorieuse comme celle qui a été semée la première. Elle remonte dans la tige pour devenir une nouvelle église. Quand on vient pour la ramasser, la vie qui était descendue dans Luther, la vie qui était descendue dans les méthodistes, la vie qui était descendue dans les pentecôtistes, entrera dans le grain. Elle pénétrera jusqu'au cœur même du grain. Elle germera, formant le corps parfait de Jésus-Christ. Exactement comme le soleil se lève le matin. Vous ne pouvez contempler aucune chose qui ne soit la manifestation de Dieu. Vous n'avez même pas besoin de la Bible pour savoir qu'il y a un Dieu. Le petit soleil a porté un frêle petit bébé. Vers 7 heures, il s'en va en route pour l'école. À 10 ou 11 heures, il sort de l'école. À midi, il est en pleine force. À 3 heures de l'après-midi, il vieillit. À 7 ou 8, 6, 5 ou 6 heures de l'après-midi, son dos se voûte, il meurt. Est-ce sa fin? Non. Il ressuscite le lendemain matin. Une vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Regardez la feuille venir sur un arbre. Elle se développe en une bonne jolie feuille. Elle donne de l'ombre, elle donne un fruit. Puis, à la première manifestation de l'automne, elle est frappée à mort. Elle retombe sur le sol près des racines. Est-ce sa fin? Le printemps suivant, elle revient pour témoigner. Oh, c'est cela, la vie perpétuelle. Mais, mes frères, mes sœurs, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle grâce à celui qui est venu et qui est parti pour nous préparer un corps. Et ces douleurs croissantes que nous ressentons, comme vous, femmes, qui vous sentez condamnées de ce que vous faites, et vous, hommes, qui restez accrochés à des doctrines, et ainsi de suite, vous voulez tous dire, je récite ce credo, je fais ceci, je fais cela. Mais il y a quelque chose ici-bas, quand vous voyez les yeux des aveugles s'ouvrir, le sourd comme l'aveugle, toutes ces choses qui ont été promises, vous voyez la parole prêchée dans sa force, vous voyez une prostituée sortie de la rue devenir une dame, et vous voyez un ivrogne sortir de son vice, être un vrai saint de Dieu. Oh, certes, vous voyez, il y a quelque chose là, la vie est là, et vous commencez à penser, bon, peut-être que je ne devrais pas faire cela, mais comprenez ce que c'est. Votre corps céleste a besoin de quelque chose. Allons, Dieu a les vitamines là-haut, pour chaque parcelle de ce corps. Jésus est allé préparer la place dans le sein de Dieu. Oui, monsieur, un petit germe, fils de Dieu, un petit-fils ou fille de Dieu. Jésus n'a demandé qu'une chose dans sa prière à son Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose, après tous les sacrifices qu'il a faits ici sur cette terre, la vie qu'il y a menée, la route qu'il a suivie. Il n'a demandé qu'une chose, que là où je suis, il puisse y être aussi. Il nous a réclamés comme compagnons. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans sa prière, votre communion et amitié éternelle. Si vous voulez le lire, ceci se trouve dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 17 et le verset 24. Alors, combien devrions-nous le désirer? Alors écoutez, si réellement vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, cela signifie tout pour vous, vous voyez? Ce n'est pas un livre de règles, vous ne vivez pas selon une règle ou l'autre, vous vivez par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. J'ai souvent dit ceci, comme missionnaire, je dois traverser les océans. Oh, dois-je emmener ma femme et mes enfants? Alors, écoutez mes enfants. Écoute, Madame Branham, je suis ton mari. Je ne devrais pas avoir d'autre mari pendant mon absence. Si tu en as, je t'écorcherai vive à mon retour. Vous voyez? Que l'on me coupe le pied, mes enfants. Écoutez ce que je dis. Vous me direz tout ce qui a été mauvais, vous voyez? Est-ce que ce ne serait pas un drôle de foyer? Maintenant, si elle me disait, maintenant à toi aussi, monsieur, je veux te dire quelque chose maintenant, monsieur Branham. Je suis ton épouse devant la loi. Tu tu n'auras pas d'autres amis non plus pendant que tu seras parti. Alors, quel foyer ce serait? Ce serait vraiment quelque chose? Non, nous n'agissons pas ainsi. Je l'aime, et elle m'aime. Quand elle sait que je pars, elle sait que je ne pars pas à moins que le Seigneur ne m'appelle. Nous nous mettons à genoux, les enfants autour de nous, et nous prions. Je dis, ô mon Dieu, prends soin de ma compagne et de mes enfants. Et eux, ils disent, ô Dieu, protège papa pendant ton absence. Et puis, nous nous séparons. Maintenant, qu'arriverait-il si je faisais quelque chose de mal pendant mon absence? Qu'arriverait-il si je péchais et qu'à mon retour j'aille vers ma pauvre petite femme et que je regarde son visage ridé et ses cheveux blanchissants, que je me dirige vers elle et lui dise, « Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Tu sais que je t'aime. Bien sûr, Billy, je sais que tu m'aimes. Je veux te dire ce que j'ai fait. J'ai emmené une femme avec moi. Je dirais, veux-tu me pardonner cela? Je crois qu'elle me pardonnerait. Vraiment, je le crois. Mais le ferais-je? Quand je la vois debout devant moi, et que je vois ses cheveux blanchissants, et que je me souviens qu'elle a toujours été à mes côtés devant le public, que je sais quelle femme admirable elle a été, pourrais-je le faire? J'aimerais mieux mourir que de lui faire mal, certainement. Et si c'est cela mon amour philéo pour ma femme, combien plus grand est mon amour agapao pour Dieu? Oh, je ne voudrais rien faire pour lui faire mal, certainement. J'aime le Seigneur. Je veux faire tout ce qu'il veut que je fasse. Je veux obéir à chacune de ses paroles, quoi que le monde puisse dire. De toute façon, ils ne veulent pas croire en lui. Je veux savoir ce qu'il m'a dit de faire. Et s'il me manque quelque chose, je veux qu'il me la donne et vivre pour lui, me tenant loin du monde. Ce vieux corps terrestre doit périr, je vais vous dire. Ce corps terrestre auquel vous attachez tant d'importance, que vous le modelez sur la mode d'Hollywood, vous êtes si près de lui. Il ne sera pas là très longtemps. Vous vous souvenez? Vous avez entendu la prophétie, vous voyez, que le Seigneur m'a inspirée. Elle est en train de s'accomplir. Oui, monsieur, remarquez, elle se réalisera. Il vous suffit d'attendre. Jusqu'à maintenant, il ne m'a encore jamais rien dit de faux. Et c'est ce que je répondrai à quiconque voudra en discuter. Je ne sais ni en quel lieu, ni à quel moment elle se réalisera, mais elle se réalisera. Le jugement est rendu. Il n'y a pas d'appel. Elle doit se réaliser. Vous voyez? Maintenant, notez bien ceci. Vivons pour lui, chrétiens. Nous tenons à l'écart du monde. Maintenant, attention. Vous regardez la télévision, certaines d'entre vous, mes sœurs, et vous y allez et voudriez. Vous, jeunes femmes, vous êtes jeunes. Je le sais. Mais vous êtes chrétienne, vous voyez? Vous êtes différente. Vous ne voulez pas être comme le monde. Vous aimez ce qui est du monde. Pas seulement vous, les jeunes, mais quelques-unes d'entre vous, les plus âgées. Vous voyez? Bien, pourquoi? Vous voyez? Vous regardez la télévision. Vous allez dans un grand magasin et vous voyez ces petits vêtements que les femmes portent et qui sont diaboliques. Savez-vous ce qui arrivera le jour du jugement dernier? Bien que vous ayez été aussi fidèle à votre mari qu'il est possible de l'être, le jour du jugement dernier, vous aurez à répondre du péché d'adultère. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme et la désire est déjà coupable d'adultère dans son cœur. Qui est à blâmer? Vous. Vous voyez, vous vous exhibez en short ou en pantalon. Quelques femmes m'ont dit dernièrement, « Je ne porte pas de short, frère Branham. » Et j'en remercie Dieu, je porte des pantalons. J'ai répondu, c'est pire, c'est pire. C'est vrai, vous ne pouvez même pas acheter une robe pour une femme. Une femme a dit, oui, vous avez dit vrai, vous ne pouvez pas l'acheter. Mais ils vendent encore du tissu, et ils ont des machines à coudre, vous voyez? Aussi vous n'avez aucune excuse, vous voyez? Ceci pour vous montrer, mes sœurs, que je suis votre frère. Et je suis un serviteur de Christ qui devra répondre au tribunal du jugement pour ce que j'ai dit ici ce soir. Vous voyez, vous vous présenterez coupable d'adultère parce que l'amour de Dieu sera parti de votre cœur. Vous allez encore à l'église, vous pourriez encore manifester les dons du Saint-Esprit et vous pourriez encore dire de bonnes paroles. Et tout cela est bien, mais c'est insuffisant. Oui, monsieur, souvenez-vous de ce que la Bible a dit. Au dernier jour, de faux Christ viendront, non pas de faux Jésus, ils ne pourraient tromper personne, mais de faux Christ, de faux prédestinés. Ils sont pourtant oints par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, et pourtant ils sont faux. Vous voyez, il y a trois personnes en vous. L'extérieur, c'est le corps. Vous avez cinq sens pour vous permettre de vivre ici-bas. L'intérieur est un esprit. Il a aussi cinq sens, l'amour et la conscience, etc., pour que vous puissiez être en rapport avec Dieu. Mais l'intérieur de cela, c'est l'esprit. Souvenez-vous, la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. La même pluie qui fait pousser un grain de blé fait aussi pousser une ronce. Vous voyez pourquoi? À l'intérieur de cette semence, il y a une nature, et cette nature se développe. Elle peut être côte à côte dans le même champ avec la mauvaise herbe. L'ivraie et le blé se tiennent côte à côte et profitent tout aussi bien. Leurs têtes se penchent, elles ont besoin de boire, la pluie vient, l'ivraie peut se réjouir tout aussi bruyamment que le blé. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, un chrétien, je peux ne jamais plus vous revoir. Il y a des années depuis que j'étais venu ici. Je peux ne plus jamais vous revoir. Alignez-vous donc sur la parole de Dieu. Regardez dans le miroir, comme un petit garçon une fois qui n'était jamais allé à la ville. Il n'avait jamais vu un miroir. Il est allé chez sa tante. Il commençait à monter les escaliers. Il a vu un miroir. Il a vu un petit garçon dans le miroir. Il a continué à monter, à regarder. Et il a fait un signe de la main. Et le petit garçon lui a aussi fait un signe de la main. Et il continua à regarder. Il ne s'était jamais vu dans un miroir. Aussi, quand il s'est approché assez près du miroir, il s'est retourné et il a dit, « Mais, maman, c'est moi. Quelle image vous renvoie le miroir de Dieu? Vous renvoie-t-il l'image d'une fille ou d'un fils de Dieu? Y a-t-il quelque chose que vous entendez qui vous fait haïr l'homme qui le dit? Ou y a-t-il quelque chose qui vous attire? Par exemple, je sais que cet homme a raison, puisque ce qu'il dit est dans l'Écriture. Alors, ce sont les vitamines nécessaires à ce corps destiné à être là-bas, une maison que cet autre habitera quand vous irez là-bas. Vous voyez, cette maison, si nous sommes nés, maintenant, souvenez-vous, nous tenons tellement à ce corps, nous le recouvrons de tant de vêtements, nous faisons tant de choses inutiles, changement après changement après changement, et toutes ces choses. Et pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Que quelqu'un commence à faire quelque chose. Vous peignez vos marches en rouge et vous voyez les Johns peindre les leurs en rouge. Vous changez votre Chevrolet contre une Ford et ils ne peuvent le supporter. C'est une époque de compétition. Vous laissez une femme aller à l'église avec un chapeau d'un certain genre sur la tête. Regardez, toutes les femmes porteront le même, spécialement la femme du pasteur. Vous voyez? Observez simplement ce qui arrive. Mais c'est la vérité absolue, c'est une époque de compétition. Frère, ce devrait être une époque de compétition pour les choses spirituelles, toutes ces choses qui ont un but. Cela m'est égal si mon veston est assorti à mon pantalon et si je passe un moment difficile. Ma femme ou ma belle-fille ou quelqu'un d'autre doit me dire quelle sorte de cravate je dois porter. Cela m'est égal si elle n'est pas assortie à mon costume. Je veux que ma vie soit en harmonie avec la parole de Dieu. C'est cela qui est important, parce que c'est la façon dont je m'efforce de vivre, pas comme les Jones du coin de la rue, mais là-bas dans la gloire où Jésus est allé pour nous préparer une place. Oui, c'est ce que nous voulons. Oui, monsieur. Éloignez-vous de tout ceci. Ce vieux tabernacle terrestre, vous savez ce que c'est? Ce corps est comme un vieux veston que vous portez, un veston que vous aviez l'habitude de porter. Mais maintenant, vous en avez un tellement mieux que vous ne le mettez plus. Que faites-vous? Vous l'accrochez dans une penderie puisque vous en avez un bien meilleur. vous avez un veston plus beau. Il est plus à la mode que celui que vous portiez qui était usé. Quoi? C'est ce vêtement. Vous en êtes l'intérieur. Rappelez-vous, ce vêtement n'a fait qu'une chose. Il a vêtu votre image. Vous voyez? Mais vous n'en avez plus besoin maintenant. Vous l'avez accroché. C'est un haillon. Et c'est ainsi qu'est votre vieux corps. Il porte l'image du corps céleste. Et pourtant, ce n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, êtes à l'intérieur de ce corps. C'est pourquoi l'extérieur se soumet. C'est parce que l'intérieur le tire. Vous voyez, le ramenant dans la ligne de la parole de Dieu. Votre intérieur, vous, vous-même, votre être. Ce corps n'est qu'un vieux vêtement. Et un jour, qu'en ferez-vous? Car vous n'étiez dans ce vêtement que pour un moment. C'est comme le vêtement terrestre. Ce corps, votre vrai corps, votre être vrai, est à l'intérieur de ce vieux vêtement. Que vous vous appeliez William Branham ou Susie Jones ou qui que ce soit. Vous voyez, un jour, il sera accroché dans les mémoires terrestres de votre personnalité. Vous le porterez au-delà du tombeau et quelqu'un dressera une stèle. Ici repose le révérend un tel ou John un tel ou un tel. Il sera là comme un souvenir de vous. Les gens ne vous verront plus qu'à travers ce vêtement, mais ce que vous étiez, votre vrai vous, était à l'intérieur de ce vêtement. Le vieux vêtement lui-même ne porte que l'image de votre corps céleste. Oh mes frères, vous êtes-vous préparés à changer de vêtement? Vous êtes-vous préparés pour le ciel? Souvenez-vous, vous devez être préparés. Sans préparation, vous ne pourrez pas entrer. Maintenant, je vous parle avec des mots de tous les jours, mais vous le savez, si vous allez à l'hôtel et dites, « Bien, avez-vous retenu? Non? Alors je regrette, tout est pris. Vous restez dehors dans le froid parce que vous avez oublié de retenir. Et si vous arrivez à la fin du voyage de votre vie sans avoir retenu, il n'y aura personne là-haut pour vous accueillir. Vous devrez entrer dans une éternité obscure où il y aura des hurlements, des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville parce que vous n'avez pas de billets de location. Vous devez les avoir pour entrer dans cette ville où Jésus est allé vous préparer une place. Souvenez-vous, vous devez avoir les billets de location et être revêtu du vêtement du salut. Vous ne pouvez pas, dans l'évangile de Matthieu, j'ai une Bible ici, je consulte l'écriture, dans Matthieu chapitre 20, 22, versets 1 à 14, je n'ai pas le temps de vous le lire parce qu'il est tard, je vous ai parlé trop longtemps, mais souvenez-vous, le roi envoya ses serviteurs appeler les invités aux noces, il avait tué tous ses bœufs et ses animaux gras et tout, et un grand repas avait été préparé. Et il envoya ses serviteurs pour inviter des gens à venir. L'un dit, « Oh, tu vois, j'ai ceci à faire et puis ceci, et je dois aller à ma ferme. » Et un autre avait encore beaucoup de choses à faire. Et de nouveau, il renvoya ses serviteurs qui furent très mal reçus. Et enfin, c'est à cette génération juive que Jésus parlait, ils avaient autre chose à faire. Enfin, il envoya son serviteur et dit, « Va et force-les, va dans les rues et sur les routes et partout, et oblige-les à venir. » Et après cela, il résolut à ce que sa maison soit remplie. Son repas de noces allait être servi. Il y aurait ainsi des invités, et il trouva un homme qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Il était très attaché à son vieux vêtement. Et il lui dit ceci, « Ami, après t'avoir invité à mon repas de noces, et je t'ai invité, et je t'ai donné une invitation. Oh, si vous n'êtes jamais allé en Orient, où j'ai prêché très souvent, ce souper de noces est exactement le même qu'à cette époque. Le marié a autant d'invités qu'il doit en avoir. Probablement, frère Kopp, probablement vous l'avez vu aux Indes, vous voyez, ils ont autant d'invités que le mari a voulu. Supposons qu'il veut inviter 30 invités. Alors, le marié doit fournir les vêtements. Il doit les fournir. En conséquence, il y a un homme à la porte. Et vous arrivez avec votre invitation. Il examine votre invitation et il vous revêt du vêtement, une robe. Certains sont riches, d'autres sont pauvres, et d'autres sont différents, mais ils se ressemblent tous quand ils ont revêtu ces robes. Ils sont tous semblables, et vous devez tous être semblables. Vous ne devez pas dire, « Je suis le méthodiste de tel endroit, je suis le presbytérien de là-bas. » Oh non, vous ne devez pas vous mettre au premier rang. Vous voyez, vous devez entrer par la porte. Jésus a dit, « Je suis la porte de la bergerie. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. » Cela ne signifie rien. Vous entrez par une porte, et si vous entrez par cette porte, on vous donnera la robe. Et cet homme, quand le Seigneur a dit, « Comment es-tu entré ici, mon ami ?» Vous voyez, ceci montre qu'il est entré par un autre chemin. Il est entré par une fenêtre, par la porte de service, mais pas par la porte, pas par la porte, par où Jésus est venu, par le sacrifice de soi-même, donnant tout votre être à Dieu et montant au calvaire pour être crucifié avec lui et renaître, pour porter son vêtement de sacrifice et de mort aux choses de ce monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous voyez, si vous avez encore l'amour du monde, vous voulez agir comme le monde et faire comme le monde, vous essayez, vous êtes dans l'église, mais comme l'ivraie dans un champ de blé. Criez avec les autres, réjouissez-vous avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont aussi sur vous. Vous dites, comment? Mais je prophétise. Caïphe aussi, Balaam, cela n'a rien à voir. J'ai le baptême du Saint-Esprit, cela n'a encore rien à voir. Ce n'est pour vous qu'un don temporaire. Le vrai don est votre esprit à l'intérieur de vous, vous voyez, qui est né de Dieu et qui conduit tout votre être vers la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, vous voyez, alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses dont vous venez, comme la mer maintenant, vous êtes dans les entrailles de la terre essayant de germer. Vous êtes un fils de Dieu sortant de terre. Et vous voyez la parole dire, je ferai ceci, je naîtrai de nouveau. Bien, mais j'appartiens à une église. Cela ne signifie rien, vous voyez. Je suis méthodiste, ma mère, c'est bien pour votre mère. Mais moi, je suis pentecôtiste, j'appartiens. Si vous ne suivez pas la parole, il y a quelque chose de faux, vous voyez. Alors voyez-vous, votre vrai père n'est pas Dieu, vous voyez. Parce que ce vrai départ dans votre âme, avant même qu'il y eût un esprit, c'était votre âme. Cette âme ne venait pas de Dieu. Donc au commencement, elle n'était pas un germe de Dieu. Vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le champ, comme l'ivraie, portant les stigmates des péchés du monde, naissant, agissant comme le monde, aimant les choses du monde, parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et maintenant, dans les derniers jours, il y aura de faux prédestinés, pas de faux Jésus, ils ne pourraient pas soutenir leurs prétentions, mais de faux prédestinés. Ils sont prédestinés, oui monsieur, mais ce sont des antichrists. Ils sont prédestinés avec le Saint-Esprit pour accomplir les signes et les miracles que le Christ a fait, mais ils ne veulent pas obéir à sa parole, vous voyez. Beaucoup viendront vers moi au dernier jour et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et chassé les démons en ton nom ?» Il dira, « Éloignez-vous de moi, vous qui travaillez dans l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. » J'étais pentecôtiste, Seigneur, gloire à Dieu. J'ai parlé en plusieurs langues, j'ai imposé les mains aux malades et je les ai guéris. J'ai chassé des démons. Éloignez-vous de moi, vous qui travaillez dans l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. » Vous voyez ce que je veux dire? Ô petits enfants, ressentez-vous le besoin de cette vitamine ce soir? Ce quelque chose, il y a un corps qui vous attend là-bas. Il y a un corps qui attend de vous recevoir. Mes frères, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Le diable est un trompeur. Vous devez porter la robe de mariage. Vous le devez. Maintenant, c'est le soir. Notre corps terrestre est maintenant prêt à être dissous. Et nous nous préparons à entrer dans notre corps céleste. Et maintenant, nous ressentons cet étrange appel de Dieu d'aller à ce grand Éden. et avant que nous puissions y naître, nos petits corps crient pour quelque chose qui doit nous être donné, ou nous serions des enfants très malheureux si nous en étions privés. Dieu n'a pas de tristesse là-haut. Ils sont tous parfaitement alignés. L'épouse est exactement comme le marié était, la parole manifestée en son temps. Dieu nous favorise ce soir, mes enfants, chacun d'entre nous. Il y a un ciel à trouver. Il y a un enfer à se tenir écarté. Maintenant, beaucoup d'entre vous savent que le Seigneur m'a accordé des visions, des milliers de visions. La chose la plus merveilleuse, j'avais peur de la mort. Il y a environ 3 ans, vous avez lu dans la publication des hommes d'affaires du plein évangile, au-delà du rideau du temps. Je comprends que je pourrais ne pas passer la nuit. Je peux ne jamais vous revoir ici de toute ma vie. Mais ceci est vrai. Je ne sais pas si j'appellerais cela une vision ou quoi. Un matin, récemment, je venais de me réveiller. J'étais rentré après des réunions et ma femme était couchée endormie. Je dis, « Chérie, es-tu éveillée ?» Elle dormait encore. Je savais que nous devions nous lever pour préparer les enfants pour l'école. Et je mis mes mains derrière mon dos comme ceci. Et je dis, « Dis donc, Bill Branham, sais-tu que tu as plus de 50 ans? Si tu as l'intention de faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher, parce que tu n'en as plus pour longtemps à vivre. » Je pensais, « Mon Dieu, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours eu dans la tête que quand nous mourrons, je verrai, oh, comme le frère ici, je dirai, « Ah, vous avez prêché dans mon église un soir sur la terre, frère Branham. Mais c'est un esprit. Je ne pourrais lui serrer la main parce que sa main est là-bas dans la tombe en train de pourrir, la mienne aussi. » Je pensais souvent à ce genre de choses. Mais ce matin, quand j'ai senti quelque chose venir sur moi, j'ai pensé, d'habitude une vision vient comme cela, et j'ai regardé, et j'ai regardé, et j'ai pensé, quoi, qu'est-ce que ceci? Et j'ai vu de grandes collines vertes et des jeunes femmes venant de partout, par dizaines de milliers et par centaines de milliers. Et elles venaient toutes, de longs cheveux sur le dos, vêtues de robes blanches, pieds nus, hurlant, notre bien-aimé frère. Je pensais, maintenant, ceci est étrange. Et je me retournais et je regardais, et j'étais étendu là, et ma femme était couchée sur le lit. Et je dis, maintenant, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Tu es mort. Et je dis, j'ai dû avoir une crise cardiaque ou quelque chose de ce genre. Je suis mort, mon corps est là. J'étais couché là, mes mains derrière moi comme ceci, vous voyez, tout aussi raide. Je pensais, bon, cela n'est pas à plus de 20 pieds de moi. Et je regardais, je pensais, voilà ma femme qui est là. Il y a tout, il y a ma chemise accrochée à ce pilier de lit, et je pensais, je suis là. Je regardais encore tout autour de moi, et toutes ces femmes qui venaient, elles étaient, et je les voyais venant vers moi, et il y avait mes frères, vraiment eux, paraissant tout jeunes. Ils criaient, notre bien-aimé frère. Vraiment, je ne savais pas quoi penser. Je pensais, ceci est étrange. Je regardais encore, et je n'étais pas vieux, j'étais jeune. Et je pensais, ceci est une chose vraiment étrange. Je pensais, est-ce une vision? Je me mordis le doigt, et je pensais, non, ce n'est pas le genre de vision que j'ai déjà eue. Et alors, j'entendis une voix me parlant d'en haut et qui disait, tu as rejoint tes parents. Et je pensais, mes parents, sont-ils tous des Branham? La voix me répondit, non, ce sont tous ceux que tu as convertis à Christ. Et ces femmes, vous savez que vous avez toujours été considérées comme, oh, ils m'appellent un misogyne, mais je ne le suis pas, vous voyez, parce que je crois, vous voyez, je n'aime pas les choses immorales et indécentes, mais j'aime des sœurs saintes. Si elles le sont, c'est très bien. J'ai eu des cicatrices quand j'étais enfant. Je connais des choses qui sont arrivées et qui en quelque sorte m'ont conduit sur ce chemin. Mais c'est entièrement l'œuvre de Dieu me façonnant pour cette heure. Vous voyez, maintenant, je pense que plus une sœur est simple, meilleure elle est. Si Dieu pouvait donner à un homme quelque chose de meilleur que le salut, il lui donnerait une épouse. Vous voyez? Et alors, s'il avait pu donner à l'homme quelque chose de meilleur, il l'aurait fait. et alors voir certaines d'entre elles s'écarter et ne même pas agir en épouse, trahir à la fois les vœux de leur mariage et leur mari. Souvenez-vous bien, vous êtes liés l'un à l'autre aussi longtemps que vous vivez. Ce que Dieu a uni sur la terre est également uni dans le ciel. Vous voyez? Et aussi alors, j'ai vu cela, et ces femmes courant vers moi et me prenant dans leurs bras et m'étreignant et m'appelant frère. C'étaient des femmes, mais on ne pouvait pas pécher dans ce lieu. Vous voyez, elles étaient femmes, mais remarquez ce qui fait la différence maintenant. Une femme avec une glande femelle et un homme avec une glande mâle, c'est pour faire des enfants. Si cela n'était pas le cas, ils seraient tous de la même glande, mais ils auraient encore la même apparence. Leur image terrestre qu'ils présentent ici sera là, mais il ne pourra jamais y avoir de péché. Vous êtes tous les mêmes. Il n'y aura plus d'enfants là-bas, vous voyez, c'est vrai, ce sera comme cela. Et alors j'ai regardé, et ces femmes, et ils m'ont ramassé, ces frères, et ils m'ont installé dans un endroit. J'ai dit, pourquoi avez-vous fait ceci? Ils ont dit, sur terre, tu étais un dirigeant. Et ils dirent, voilà tes gens. Et alors une femme est venue, elle dit, notre bien-aimé frère, une très belle femme, quand elle est passée, cette voix dit quelque chose. « Est-ce que tu ne te rappelles pas ?» Je répondis non. Et la voix dit, « Tu l'as conduite à Christ quand elle avait plus de 80 ans. » Vous voyez, ne comprenez-vous pas pourquoi elle dit, cher frère ? Et j'ai dit, « Bien, allez-vous partir ?» Ils répondirent, « Non, nous attendons ici. » J'ai dit, « Bien, si je suis mort, je veux voir le Seigneur Jésus. » Ils ont dit, « Vous ne pouvez pas le voir maintenant. L'Écriture a dit ceci, les âmes sont au-dessous du Très-Haut. Il est un petit peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur la terre. Ici, nous ne mangeons ni ne buvons. » Et j'ai dit, « Voulez-vous dire que j'avais peur de ceci? Comment ceci? Il n'y a pas de mots pour en parler, ami. C'est parfait, ne l'exprimerai même pas. Sublime, il n'y a aucun mot en anglais que je connaisse. Absolument aucun mot qui pourrait jamais exprimer ce que c'est. C'est au-delà de tout ce que je connais. Il était là. Il n'y avait ni maladie, ni tristesse. Vous ne pouviez pas mourir. Vous ne pouviez pas pécher. C'était simplement parfait. Simplement parfait. Ami, vous ne devez pas le manquer. Rappelez-vous, quand j'étais un petit garçon, j'ai eu une vision de l'enfer. Comme petit garçon. Et vous savez comment les dames d'aujourd'hui, ou les femmes, une dame ne voudrait pas faire une chose comme celle-là, peignent leurs yeux comme un loup ou quelque chose comme cela, et mettent cette chose bleue sous leurs yeux. Je l'ai vu. J'étais désespéré. Étant petit garçon, on avait tiré sur moi, et j'étais couché mourant dans un hôpital. Et j'avais toujours su qu'il y avait Dieu. Je me souviens de la première prière que j'ai jamais essayé de faire. La seule chose que je pouvais dire, je n'ai jamais dit ceci avant. Mais maintenant, j'ai envie de le dire tout de suite. On a tiré sur moi. Je gisais mourant dans un champ. Et la seule prière que je pouvais faire à Dieu était, « Tu sais, Seigneur, que je n'ai jamais commis d'adultère. » Vous voyez? Et bien qu'étant un petit garçon de 15 ans environ, j'avais essayé de suivre le droit chemin. Et j'ai dit, « J'ai vécu proprement. » Et c'est tout ce que je pouvais dire. C'est tout le mérite que je pouvais lui offrir. Et alors, couché là, quand le docteur s'écarta de moi, je me sentis sombré dans une sombre éternité, et ressemblé, et j'appelais papa, « Oh papa, aide-moi !» Il n'y avait pas de papa là. « Maman, aide-moi !» Il n'y avait pas de maman là. « Mon Dieu, aide-moi !» Il n'y avait pas de Dieu là. Ce n'était qu'un cauchemar horrible, infini. Comparé à cela, c'eût été un plaisir d'être dans un enfer flamboyant et brûlant. Et m'enfonçant de plus en plus, je pensais, « Oh mon Dieu, toujours et toujours comme ceci !» Et j'arrivais dans un endroit rempli de fumée, sombre. J'étais malade, et oh, une telle sensation. Et je sentais la mort sur moi. Et je voyais ces femmes montant vers moi avec leurs yeux, et qui étaient là, tout peints. Maintenant, rappelez-vous, c'était il y a 55 ans, oh, environ 40 ans de toute façon. Elles allaient, Le frère Branham fait un son descriptif, note de l'éditeur. Je dis, suis-je ici pour l'éternité? L'éternité pour toujours. Je dis, ô mon Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je n'aurai plus jamais honte de toi. Je n'aurai plus jamais honte. Mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi une chance. Et aussitôt, je me sentis revenir à la vie. Et le docteur était alarmé parce que mon cœur n'avait que 17 pulsations à la minute. J'avais perdu tout mon sang et tout. Je baignais dans mon sang. Et un jour, je me suis demandé comment cela était arrivé. Il y a environ 2 ans, quand je suis allé m'installer à Tucson, j'étais avec ma femme à J.C. Penney's. Et j'étais assis comme cela, la tête baissée, attendant parce que vous savez combien les femmes sont longues quand elles font des achats. Et j'étais assis la tête baissée comme cela, et un escalier mécanique montait, et des femmes arrivaient avec leurs cheveux coupés, vous savez comment, comme ça. Elles montaient avec leurs yeux peints, comme cela, elles parlaient espagnol. Et cela à tout, la vision est revenue, elle était là. Le frère Branham fait un bruit descriptif, note de l'éditeur. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, cela peut paraître drôle maintenant, mais quand vous y êtes, c'est une chose sérieuse. Je vous souhaite de ne jamais passer par là. Je suis un vieil homme, un ministre de l'Évangile. J'ai prêché dans le monde entier. J'ai eu des millions d'amis. Mais je sais que je dois rester avec vous jusqu'à l'au-delà. Écartez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui vous pousse encore à vouloir agir comme vous avez toujours agi, les choses du monde sont ancrées en vous. Rappelez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous êtes simplement le membre d'une église. Jusqu'à ce que cet appel profond, retentisse jusqu'au plus profond de vous-même. Vous voyez, de même qu'au commencement, il y avait une nageoire sur le dos d'un poisson, il devait y avoir de l'eau pour qu'il puisse nager. Sans cela, il n'aurait jamais eu de nageoire. Au commencement, il y avait un arbre destiné à pousser dans la terre. Alors, il devait y avoir une terre où il n'y aurait pas eu d'arbre pour pousser dedans. Cet arbre n'aurait pas eu de raison d'être. Et pour le faire, avant la création, il fallait qu'il y eût un créateur. Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de vérité. Il y a quelque chose en elles. Vous avez levé votre main il y a quelque temps. Je veux plus de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose dont nous avons besoin. Et si vous aimez le monde et vivez selon le monde, les choses du monde, vous voyagerez avec le monde, et vous serez entraînés dans la chute du monde. Vous voyez, sortez du monde. Vous êtes les fils et les filles du roi, Soyez des dames et des messieurs. Marchez comme des chrétiens, vivez comme des chrétiens, agissez en chrétiens. Souvenez-vous, je vous rencontrerai à la barre du tribunal de Dieu, et je vous ferai ces remarques. Vous voyez, regardez-vous dans la glace ce soir et observez-vous. Où vais-je? Jésus me prépare-t-il une place, un corps? Ce corps-là est parfait. Ce corps marche dignement. C'est un fils ou une fille de Dieu. Et je souffre les douleurs de la naissance ici-bas pour naître dans ce corps là-bas. Si j'aime encore le monde, cela me montre que je n'ai pas de corps là-bas. Je ne suis qu'un membre d'église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne suis pas, il n'est pas mon père. Il a dit, si vous ne pouvez pas supporter la correction, c'est ce que nous sommes en train de supporter maintenant, vous êtes des enfants bâtards et non des enfants de Dieu. N'est-ce pas vrai? La Bible dit-elle ceci? Si vous ne pouvez pas supporter le châtiment de Dieu, quand vous voyez la ligne de conduite tracée par l'Écriture et que vous dites, oh, je ne veux pas entendre parler de cela. Moi, je suis un chrétien. Je fais ce qui me plaît. Très bien. Continuez, vous voyez, c'est la meilleure preuve que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais un vrai enfant de Dieu a faim et soif de lui. Pourquoi? S'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit que vous voulez l'au-delà et que vous en avez besoin, cela montre qu'il y a quelque chose de vivant qui vous y attire. Il y a un corps là-haut, dont notre corps actuel est une image. À quoi employons-nous celui-ci? À glorifier le diable, le monde, les modes et les choses, ou regardons-nous vers le ciel? Il y a quelque chose là-haut. Vous y glorifiez Dieu par votre vie. Dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs maisons. Si l'on n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Et je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai pour vous recevoir avec moi, pour que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Les choses qui doivent être, ces choses qui ne sont maintenant qu'en puissance, appellent les choses qui devront être. Prions. Pensons sérieusement, voulez-vous, chers amis chrétiens. Pendant un moment, pensez vraiment sérieusement. Soyons vraiment recueillis, ne serait-ce que pour une minute. Laissons parler le Saint-Esprit. Il y a maintenant longtemps que le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous, pentecôtistes. Voici un de vos garçons qui revient vers vous pour être votre pasteur. C'est la conséquence de son ministère. Il a vu notre Seigneur Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Fait, dit-on, les vagues se séparer. J'ai encore beaucoup de guérisons à accomplir, mais je me rends compte que j'ai prié pour de nombreux malades. Ils ont été guéris. Le Seigneur a exaucé mes prières et a guéri les malades. Mais vous savez, quelques-unes de ces personnes qui ont été guéries sont déjà mortes. Et quelle que soit la virulence de votre maladie, si vous êtes guéri, vous devez mourir de toute façon. Mais cette âme, mon cher frère, cette âme, ma chère sœur, ne voulez-vous pas y penser maintenant? Elle est éternelle. Si l'amour de Dieu n'est pas en elle, rien ne l'attirera vers Dieu. Rien ne lui fera demander Dieu. Ô mon Dieu, fais-moi prendre un nouveau départ ce soir. Je t'aime, Seigneur. Je veux t'aimer. Quelque chose en mon cœur me dit que je dois vivre plus près de toi. Je veux venir dès maintenant et le faire. Si cette personne ou des personnes qui sont dans cette salle ou à l'extérieur de cette salle, je leur demande, en tant que serviteur du Christ et au nom de Jésus-Christ, de bien vouloir, la tête baissée, lever leurs mains vers Dieu et dire simplement ceci, « Ô Dieu, attire-moi plus près, beaucoup plus près de toi, ô mon Dieu, je veux obéir à tout ce qui est commandé par ta parole. Levez vos mains maintenant, soyez seulement vraiment francs. Réfléchissez simplement. Maintenant, dites, « Oh, mais j'ai fait ceci. J'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai prié. Mais voyez, quelque chose manque dans ma vie. J'ai regardé dans le miroir de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose. Je vais à l'église, mais je ne suis pas comme je devrais être. » Vous voyez, cela montre que quelque chose manque. Maintenant, si vous pouvez rentrer en vous-même et voir que vous n'agissez pas conformément à la parole de Dieu, et qu'il n'y a rien en vous qui vous pousse à lever la main, alors vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez, il y a, ma mère avait coutume de dire, vous ne trouverez jamais du sang dans un navet, parce qu'il n'y a pas de sang à l'intérieur. Vous voyez, pensez-y très sérieusement, c'est peut-être votre dernière chance. 30 ou 40 mains se sont levées ici dans ce petit groupe, même les mains des pasteurs. Soyez pleins de vénération. Pendant un seul moment, maintenant, réfléchissez vraiment sincèrement. Ô mon Dieu, je peux être tué ce soir dans un accident. Je peux mourir d'une crise cardiaque un de ces matins. Je peux appeler le docteur et à son arrivée, il peut trouver mon pouls désordonné. Je suis mourant. J'appuie ma joue contre l'oreiller et je dirai, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Vous voyez, c'est la dernière pulsation du cœur. Vous arrivez devant cette grande porte. Vous n'en sortirez jamais, à moins que vous ne naissiez de nouveau par l'Esprit de Dieu. Vous n'en sortirez jamais, à moins qu'il y ait quelque chose en vous, après votre naissance dans l'Esprit de Dieu, qui ait faim et soif de continuer avec Dieu. Ce doit être, vous voyez, vous êtes un enfant dans la terre, dans les entrailles de la terre, attendant encore de naître dans le royaume de Dieu, car il est allé préparer un autre corps pour vous, un corps parfait. Maintenant, réfléchissez vraiment profondément et prions tous ensemble. Ô mon Dieu, je sais que cela est inscrit dans le livre, le grand registre. Nous avons erré dans la science, Seigneur, assez pour nous éveiller aux réalités et nous faire savoir que chaque geste que nous faisons fait le tour du monde au moment où nous le faisons. Nous le savons par la télévision. Nous comprenons, Père, que cette télévision ne fabrique pas une image, Elle canalise les vibrations dans un tube qui fait l'image. Même la couleur des vêtements que nous portons est transmise sur les vagues de l'éther autour du monde. Mais comment se fait-il que nos sœurs, portant de tels vêtements, agissent comme elles le font, ne désirent même pas Dieu, la figure peinte, les cheveux coupés? Les pasteurs qui voudraient étudier la théologie dans des séminaires, étudier les choses que l'homme a dites, qui font selon leur tradition que les commandements de Dieu n'ont alors aucune influence sur les gens. Selon leur tradition, ils disent qu'ils devraient appartenir à une église et que cela suffit. Oh mon Dieu, comprennent-ils que chaque mot que nous disons, scientifiquement contrôlé, est sur un disque qui commence quand nous commençons à vivre sur cette terre et qui finit quand nous mourons, et qui est mis dans l'album de Dieu pour être écouté le jour du jugement dernier? Comment allons-nous échapper à la damnation de Dieu si les choses nous ont été exposées aussi clairement et que nous les ayons méprisées? Ô Dieu bien-aimé, ces paroles ne périront jamais, elles sont éternelles. Le disque sera écouté le jour du jugement dernier. Tu as vu toutes ces mains qui se sont levées au Père. Tout ira bien le jour du jugement dernier. Les pensées de leur cœur seront également là en ce jour. Maintenant, Dieu notre Père, je te demande toi. Oh, je te demande, moi ton serviteur, je t'en supplie, de bien vouloir écarter toute iniquité de ton peuple. L'iniquité, quelque chose que nous savons que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. David disait, « Si je laisse entrer l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'exaucera jamais ma prière. Je t'en prie, ô mon Dieu, daigne enlever notre iniquité, parce que la parole est le miroir et qui nous montre comme nous sommes loin d'être les fils et les filles du roi. Père, je t'en prie, fais-le ce soir et fais qu'il y ait un autel dans ce lieu, parce qu'un autel fixe beaucoup de personnes. » Fais que la chaise sur laquelle ils sont assis devienne un autel, que leur cœur soit un autel, que le monde soit chassé de tous les frères et sœurs qui sont ici. Et puis ce petit germe de vie, ce germe de Dieu dont nous venons de parler, cet attribut qui descend de Dieu et s'est manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu. Ô Dieu, chasse le monde de leur esprit. Pour les autres, Seigneur, je ne peux pas prier, parce que leur péché conduit à la mort. Il n'y a rien qui puisse les faire bouger, mais ceux qui peuvent remuer savent ce qui est mal, purifient leur cœur et leur âme ce soir, Père, et qu'ils soient remplis de ton esprit, qu'ils marchent dans ta lumière. Seigneur, bénis ce cher pasteur, jeune, saint, à l'air fort, ce jeune homme frappé, dit-il, par ce qu'il t'a vu faire. Ce beau jeune homme, ô Dieu, enflamme son âme. Fais-le, Seigneur, qu'il soit un bon pasteur, continuellement tout le temps, pour nourrir le troupeau que le Saint-Esprit a confié à sa garde. Accorde-le, Seigneur, qu'il ne bifurque ni à droite ni à gauche, qu'il n'y ait pas de place pour un credo, ni pour rien d'autre, mais que seule la parole vraie de Dieu sorte de sa bouche. Bénis-le, mon Dieu, lui et ceux qu'il aime, et sa petite église ici, sois avec eux tous, Père. Père, je te les confie, le grain a été semé, puisse-t-il être ce grain destiné à la vie et grandir grand et fort pour les chrétiens de cette assemblée et des autres groupements d'où ils viennent. Exauce-nous, Seigneur, je te les confie au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Père, il a été blessé pour nos péchés, meurtri pour notre iniquité, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a quelques minutes, j'ai vu une pauvre femme nerveuse franchir la porte. Et ô Dieu, dans sa propre famille, que de grandes choses ont été faites. Tu t'es manifesté. Je te prie, Dieu, pour cette femme. Efface toute sa vie passée, Seigneur. Guéris-la ce soir. Ô, le veux-tu, Seigneur, ramène-la à toi. Je vois un petit enfant assis ici, Seigneur, qui a besoin d'être guéri et d'autres, daigne les guérir, Père. Je t'en prie, exauce-moi. Puisse ta grande puissance de guérison venir nous guérir tous dans notre âme et dans notre corps. Et maintenant, que ceux qui sont dans cette église ou dehors et qui ont besoin d'être guéris, qui
qui lèvent la main et disent, j'ai besoin d'être guéri, frère Branham. Oh, regardez comment tout le monde fait. Très bien. Si vous croyez que je suis un serviteur de Christ, dites Amen. L'assemblée dit Amen. Note de l'éditeur. Alors, je veux que vous imposiez les mains les uns aux autres. Posez vos mains simplement les uns sur les autres. Vous levez une main, ceux à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous levez la main pour montrer que vous croyez en Dieu. Jésus a dit, c'est sa dernière recommandation à l'Église, « Allez à travers le monde et prêchez l'Évangile à chaque créature. Celui qui croira, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. » Et s'ils imposent leurs mains sur les malades, ceux-ci seront guéris. Jésus a dit cela, souvenez-vous, il a dit cela, cela doit arriver. Il n'aurait pas dit cela sans que quelqu'un puisse recueillir cette parole. De même que le ventre de Marie a pu concevoir, une vierge concevra. De même, un palmier a pu être créé et un chêne poussé sur une colline, sa parole l'a fait. Sa parole peut pénétrer dans votre cœur à l'instant même. Je suis un croyant, Seigneur. Cet homme, cette femme sur lesquels j'ai posé mes mains souffre. Je ne prie pas pour moi-même parce qu'il prie pour moi. Je prie pour elle ou pour lui. Ô mon Dieu, guéris-le, guéris-la. Et je suis un croyant. Et maintenant nous sommes tous rassemblés. Nous venons d'apprendre que nous étions avec Christ quand il marchait sur la terre, car nous sommes une partie de sa parole. Nous avons souffert avec lui, nous avons saigné avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous nous installons dans les lieux célestes en Jésus-Christ, le grand roi installé ici au milieu de nous. Et je suis un fils ou une fille de ce roi. J'ai ma main posée sur un fils ou une fille du roi qui prie pour moi, et je prie pour eux. Maintenant, Seigneur, exauce ma prière. Guéris ce fils de Dieu ou cette fille de Dieu. Ensemble, prions maintenant les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous venons humblement confesser nos péchés. Nous venons confesser que nous méritons et la maladie, et la mort, et le chagrin. Mais nous acceptons ton expiation pour nos péchés et notre maladie. Et ce soir, ces fils et ces filles de Dieu, réunis ici, écoutant la vérité de la parole et levant leurs mains et voulant se rapprocher de toi, posent maintenant leurs mains les uns sur les autres parce qu'ils croient que ta parole est vraie. Ils croient que maintenant ils sont ressuscités avec le Christ, établis dans les lieux célestes avec lui. Ils ont leurs mains les uns sur les autres, priant les uns pour les autres. Tu as dit qu'une prière dite avec foi sauverait les malades et que Dieu les relèverait et que s'ils avaient péché, leurs péchés leur seraient pardonnés. Confessant nos fautes les uns aux autres, nous prions l'un pour l'autre, pour que tu puisses les guérir, car la prière efficace du juste peut beaucoup. Ô Dieu éternel, écoute la prière de ton serviteur. Et maintenant, il est encore écrit, « Si des gens appelés en mon nom se rassemblent et prient, alors je les entendrai dans le ciel. Ô Dieu là-haut dans le ciel, écoute ce soir la prière de tes enfants. Fais descendre le Saint-Esprit sur cette assemblée comme un vent puissant et violent. Et nous présentons ces personnes à Dieu. Satan, tu es vaincu. Tu es un être vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu au calvaire. Tu n'as aucune puissance. Tu es un imposteur. Nous te chassons ce soir. Au nom de Jésus-Christ, sortez de ces gens. Présents ici ce soir, vous, maladies et troubles, qu'ils puissent être délivrés au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Ressentez-vous la gloire de Dieu? Sentez-vous que vos prières sont exaucées? Croyez-vous que Dieu a exaucé la personne assise à côté de vous? Combien le croient? Levez la main, et voilà. Oh, c'est merveilleux. Je l'aime, je l'aime. Levez vos mains maintenant et chantez en son honneur de tout votre cœur, parce qu'il m'a d'abord aimé. Le dites-vous de tout votre cœur maintenant. Il m'a racheté, sur l'arbre du calvaire. Combien d'entre vous sentent que Dieu leur a pardonné leurs péchés, les fautes que vous avez commises? Et à partir de ce soir, ô agneau de Dieu, je promets de marcher dans le droit chemin. Je marcherai dans l'honneur du nom de chrétien qui est le mien. En suivant la route du Christ, je lève les mains au Dieu. De nouveau ce soir, je me consacre à toi. Je marcherai dans la lumière. Amen. Nous marcherons dans la lumière, lumière magnifique. Venez où scintillent les gouttes de rosée du pardon. Resplendis tout autour de nous jour et nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Nous marcherons dans la lumière. C'est une si belle lumière. Elle vient où les gouttes de rosée du pardon scintillent. Il est allé nous préparer une place. Resplendit tout autour de nous, jour et nuit, ô Jésus, la lumière du monde. Venez tous proclamer Jésus, Saint de lumière, Jésus la lumière du monde. La vérité et le pardon sont dans son nom. Jésus, la lumière du monde. Qu'allons-nous faire alors? Nous marcherons dans la lumière, une si magnifique lumière. Venez où les gouttes de rosée du pardon scintillent, resplendit tout autour de nous jour et nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Ô amis, ne vous sentez-vous pas complètement purifiés? Ne vous sentez-vous pas bon? Ô mon Dieu, donnons-nous la main pendant que nous chantons de nouveau. Nous marcherons dans la lumière, une lumière si magnifique. Venez où... Dieu vous bénisse, frère. Le pardon resplendit, resplendit tout autour de nous, jour et nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Fermons les yeux et chantons la bouche fermée. L'assemblée chante à bouche fermée, note de l'éditeur. Nous agissons comme des enfants, mais nous sommes des enfants. Ô, c'est une lumière si magnifique. Elle vient d'où les gouttes de rosée du pardon scintillent. Ô resplendis tout autour de nous jour et nuit, ô Jésus, la lumière du monde. Ne l'aimez-vous pas? Ma foi s'élève vers toi, toi agneau du calvaire. Fermez vos yeux et chantez, adorez en esprit. Divin Sauveur, maintenant écoute-moi pendant que je prie. Efface tous mes péchés et qu'à partir de ce jour je sois entièrement à toi. Tandis que je foule ce sombre dédale de la vie, et que le chagrin s'étend autour de moi, ô, sois mon guide, ordonne aux ténèbres de se transformer en clarté, efface les craintes de la tristesse, et ne me laisse jamais m'écarter de toi. Ô mon Dieu, tu sais que je suis un garçon vieux jeu. J'aime, je pense que toutes ces nouveautés sont en petits morceaux, ont les dents branlantes, le rock'n'roll, ces impersonnels, personnalisation s'étend à des millions de miles. Lorsque les vieux poètes écrivaient leurs chansons, le Saint-Esprit touchait leurs plumes et ils commençaient à écrire. Ô mon Dieu, je pense à Eddie Prout et à tous ces grands, Fanny Crosby, qui disaient « Ne me dédaigne pas, ô gentil sauveur, entends mon humble cri. » Une fois, j'ai essayé de la tenter. Elle n'aimait pas du tout le pentecôtiste Elvis Presley, qui avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de Cadillac. Je suis allé la voir, et je voulais qu'elle écrive, des chansons mondaines. Elle dit, je ne voudrais pas le faire pour rien. Je dis, bon, mais vous êtes aveugle, quand vous arriverez au ciel, comment allez-vous le voir? Inspirée, elle se retourna et dit, je le reconnaîtrai, et racheté à son côté, je me tiendrai. Je le reconnaîtrai, comment? Par le trou des clous dans ses mains. Et, si je ne le vois pas, je tâterai ses mains. Je le reconnaîtrai, et racheté à son côté, je me tiendrai. Je le reconnaîtrai, par le trou des clous dans ses mains. Cela ne vous le fait-il pas aimer? Il est allé nous préparer une place. Et si je pars pour vous préparer une place, je reviendrai pour vous recevoir moi-même auprès de moi. Les petits enfants, près de naître maintenant, obéissent au commandement de Dieu. Il y a un pasteur ici. Si quelqu'un d'entre vous n'a pas été baptisé, l'eau est prête, et vous serez admis dans l'Église, ou à faire ce que vous voulez, quoi que vous fassiez. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment de le recevoir, Ne croyez-vous pas? Oh, vous dites, frère Branham, il est tard, vous avez prêché trop longtemps. Une nuit, Paul a prêché toute la nuit ce même message, et un jeune homme tomba du mur et se tua. Et Paul, si pénétré de ce même message, posa son corps sur lui, et la vie revint en lui. Il est toujours Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne l'aimez-vous pas? Encore une fois, les mains levées, chantons, je l'aime, je l'aime. Où est le pianiste? Oui, vous si vous voulez, sœur, ou qui que ce soit, plaquez-nous un petit accord, s'il vous plaît. Combien l'aime? Levez la main et dites, je l'aime sincèrement, je l'aime de tout mon cœur, je l'aime. Maintenant, chantons-le à la gloire de Dieu, les yeux clos et les mains levées vers le ciel. Je l'aime, je l'aime. Adorons-le. Quand vous prêchez et coupez et déchirez et tirez comme cela, vous savez, c'est un baume que Dieu répand ensuite en vous et qui guérit. Maintenant, chantons. Donnez-nous un accord, s'il vous plaît. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et acquis mon salut sur l'arbre du calvaire. Et si, vous savez, il a dit, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples quand vous vous aimerez les uns les autres. C'est vrai. Si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, alors que nous nous voyons, comment pourrons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur la croix du calvaire. Le service d'adoration continue, note de l'éditeur.